C'est pas que c'est touché, mais tu sais, je veux pas me faire d'ennemis en parlant de ça, mais tu sais, c'est clair que. Fait que tu vois, ça, c'est le côté un peu plus sombre, tu sais, des fois de la boxe que le monde ne savent pas. Puis là, je suis devenu champion canadien, j'ai battu Didier Ben, j'ai rebattu un autre gars qui venait de la Lettonie. Puis après ça, genre, je prenais de la poudre, puis de la boisson, toute la soirée.
Ah, puis ouais. Ça, toi, c'est à ce moment-là, parce que j'imagine que t'es dans le fond, là, tu sais,
ouais,
c'est quoi tu cherchais à combler, là? Ça, c'était.
Hey,
la perte de ton chum.
Il y avait plusieurs vides. Le deuil aussi d'annoncer ma retraite.
Fait que là, ça t'a amené jusqu'à penser à. Mais t'as pas fait de tentative là, de
ben suicide. En fait, c'est qu'une journée, j'étais défoncé, mon gars. Puis le soleil était levé.
Yes, sir. What's up, tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici votre animateur, Jerry Alain. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, tout le monde. Et encore une fois, j'aimerais dire un gros merci à notre commanditaire de cette semaine qui est procafetière.ca. Allez checker leur site internet pour toute commande de 75$ et plus. Ils offrent la livraison gratuite juste pour vous autres. Fait que allez checker qu'est-ce qu'ils font. C'est une compagnie québécoise, locale, familiale. Qui décide d'encourager des podcasts locaux comme moi. Fait que si vous m'aimez, allez les encourager, eux autres. Allez liker sa page Facebook ou son compte Instagram. Ils vont être super, super contents. Puis c'est du super bon monde, bref. Fait que un gros merci à procafetière.ca. Mais cette semaine, qui qu'on reçoit comme invité? Et c'est nul autre que l'ancien boxeur Éric Martel Baoueli qui est venu nous parler un peu de sa vie, mais aussi de son livre qui a sorti, hein? Je n'arrêterai jamais de me battre. Éric Martel Baoueli qui a été champion des poids lourds, si je me trompe pas, poids léger, je m'en souviens plus. Des poids lourds, l'ex-boxeur poids lourd, Éric Martel Baoueli, c'était ça, qui était champion canadien de boxe. Il est venu nous parler un peu de sa carrière en boxe. Super intéressant. C'est vraiment intéressant qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus, mais il parle pas juste de boxe. Fait que c'est un podcast pas mal pour tout le monde parce qu'il nous parle aussi de ses gros problèmes de consommation qu'il a eu par la suite, qui est venu après sa carrière de boxe. Fait que bref, c'est vraiment touché encore une fois. C'est même aussi très inspirant parce qu'Éric s'en est sorti. Éric, il va bien. Puis ce gars-là, il a de l'air d'une vraie perle. Moi, le temps que je l'ai eu sur mon podcast, il a l'air de vraiment un maudit bon gars. Puis il y a une vie vraiment incroyable. Puis ça n'arrête pas pour lui encore une fois. Fait que bref, un gros merci à Éric Martel Baoueli d'être venu sur le podcast. Juste avant que je vous laisse écouter le podcast, tout le monde, je vous recommande, je vous encourage à aller vous abonner à mon Patreon. Si vous aimez ce que je fais, vous voulez que le podcast continue, allez vous abonner au patreon.com/whatsuppodcast. Ça vous permet de voir tout ce qu'il y a d'avance, que ce soit les podcasts, mes vlogs ou mes shows. J'y mets tout d'avance là. Et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique disponible pour tout le monde. Puis c'est pas cher, hein? C'est 3-4 piastres, c'est pas grand chose pour vous autres. Puis pour moi, ça fait toute la différence. Si vous pouvez pas vous abonner, ben allez vous abonner à mon compte channel YouTube. Allez vous abonner, cliquez sur la cloche pour être sûr de rien manquer. Laissez un petit thumbs up, laissez un petit commentaire positif. Écrivez boxeur dans les commentaires. Mais juste avant que je vous laisse écouter le podcast, j'aimerais vous rappeler que si vous voulez me voir en spectacle avec mon nouveau show Jerry Alain maturisé, les billets sont disponibles au jerryalain.com. Mon prochain spectacle va être le 17 février au Foutoir à Terrebonne. Après ça, c'est le 22 février à l'Imperial Bell de Québec. Les billets sont disponibles au jerryalain.com. Ou sinon, tout le monde, je vous souhaite un excellent podcast et on se revoit la semaine prochaine. Ciao. What's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de ce nouvel épisode, mais juste avant, encore une fois, dire un gros merci à procafetière.ca qui commandite ce podcast. Aujourd'hui, un invité que je suis super content d'avoir, Éric Martel Baoueli. Il était champion canadien des poids lourds en 2013. Il a écrit le livre « Je n'arrêterai jamais de me battre ». Puis c'est un livre où que tu parles de ton parcours de boxeur, mais aussi du plus gros combat que tu as eu à faire, qui est d'affronter tes propres démons. Puis tu te livres dans ce livre-là. Ouais. Un gros merci, mon gars, d'être sur le podcast.
Merci à toi.
Thank you, Esti, man. Yes. Sacrément, j'ai peur que tu partes avec ma main.
Yes.
Fait que merci beaucoup d'être là, man. Puis c'est ça, ce livre-là, comment que la décision est venue de l'écrire?
Ben, c'est un journaliste, Charles Lalande, qui lui a commencé sa carrière de journalisme pas mal quand je commençais à boxer professionnel aussi. Puis on a toujours été quand même amis, je dirais, dans la vie. Puis lui, il a dit, crème, j'ai lu la biographie, je pense que c'était de Patrick Côté. Puis il a dit, il me semble que ça serait une bonne idée qu'on écrive la tienne. Je dis, ouais, mais là, je suis pas mort encore. Tu sais, je savais, moi, je voyais ça comme une biographie, comme si c'était à la fin quasiment d'une vie qu'on écrivait ça. Mais il dit, non, mais je pense que tu as vécu assez d'affaires avec la boxe, puis je venais de prendre ma retraite. Puis justement, aussi, j'ai eu des problèmes de consommation. Ça faisait un an à ce moment-là à peu près que je consommais plus. Puis il a dit, crime, ce serait une bonne idée d'écrire ta biographie. Puis en plus, la pandémie est arrivée. Fait que tu sais, on avait du temps de libre, disons.
Ouais.
Fait que on s'appelait, je faisais un compte-rendu de ma vie, chapitre par chapitre. Puis je mentirais pas que ça a été toute qu'une épreuve même d'écrire ce livre-là, parce que c'est d'aller puiser dans ses souvenirs, dans sa mémoire, les choses un peu aussi que les blessures.
Mais oui.
Fait que ça a été tout ça, mais ça a été une belle aventure. Puis aujourd'hui, ça a pris pratiquement 3 ans à écrire. Puis aujourd'hui, je suis très fier. Puis comme je dis des fois, je le réécrirais probablement différemment aujourd'hui, parce que tu sais, on évolue,
ah ouais,
puis j'ai progressé.
Exactement,
ouais, c'est ça, avec du recul. Mais je suis très fier quand même de ce livre-là.
T'as-tu été difficile à convaincre, tu sais, parce que, tu sais, il y a des affaires, j'imagine, parce que tu te livres beaucoup,
ouais,
là-dedans, là, tu sais.
Ouais.
Puis comme tout à l'heure, on se disait un peu, tu sais, tu veux garder un peu de ton jardin secret.
Exactement,
là-dedans, là,
mais... Tu sais, c'est sûr qu'avec ma mère, tu sais, je n'ai parlé avec mon entourage aussi avant. Puis tu sais, il y a des endroits où ce que je disais, tu sais, mettons des passages où ce que je disais à Charles, bon là, aujourd'hui, je me sens trop fatigué ou je me sens pas dedans, là, parce que ça me prend beaucoup d'énergie. Il y a certains chapitres là où que je trouvais ça très difficile.
Ben ouais.
Sauf que, mais ça a été une grosse introspection. Puis comme je dis, ça a été la meilleure thérapie que j'ai pu faire, je pense. Tu sais, de me livrer, puis aussi d'être honnête, surtout envers moi-même, puis tu sais, de pas se faire de passe droit, ou tu sais, on a quand... Puis il y a des choses qu'on n'a pas mis dans le livre, mais que j'ai quand même parlé avec Charles, puis il est devenu quasiment comme mon thérapeute sans le vouloir, là.
Ben, c'est
sûr. Puis tu sais, de prendre conscience, parce que des fois, quand on recreuse pas, tu sais, puis on évite un peu des sujets, mais tu sais, on prend pas conscience de par où ce qu'on a passé puis qu'est-ce qu'on a vécu, mais là ça a été une grosse prise de conscience.
Ben ouais, puis c'est ça, puis ça peut revenir,
ouais,
tu sais, aussi,
ouais,
si tu essaies d'enfouir ça ou maintenant de le camoufler en travaillant au bout ou quoi de même,
ben
tu sais,
oui,
des fois oui ça va bien, mais il peut arriver une épreuve où ce que là tout remonte, puis là tu replonges dans, puis tu retombes en enfer,
ouais,
là,
ça a été un gros travail personnel, puis aujourd'hui je pense avoir aussi trouvé à travers ça plus des outils pour justement continuer d'avancer puis de pas retourner dans le passé, parce que des fois on le dit, tu sais, le passé c'est ça, c'est le passé, mais c'est de pas refaire les mêmes erreurs, là.
Ben ouais.
Ouais,
puis d'accepter aussi qu'on est humain, puis que
exactement,
c'est ça, puis il faut avancer là-dedans.
Ouais.
J'aimerais ça qu'on commence avec le début du début, dans le fond.
Ouais.
Comment tu t'es lancé dans la boxe? Je pense que tu as commencé ça à 16 ans.
Ouais, j'ai commencé ça à 16 ans. Moi, j'ai joué au hockey toute mon enfance, puis quand je jouais au hockey, mais tu sais, on a entendu souvent parler, mais moi, j'étais un des seuls blacks qui jouait, qui était dans à Beauport, je restais à Québec, puis un des seuls blacks qui était là, puis tu sais, ça s'est arrivé très souvent, même à pratiquement tous les matchs, comme je parlais avec un de mes amis qui était crime, je pense à toutes les games, tu te faisais traiter du N-word, là.
Ouais,
c'était incroyable, là. Puis tu sais, c'était facile, parce que justement, tu sais, c'est qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qu'on peut voir, ça fait que moi, c'est ma couleur. Fait que j'ai vécu beaucoup de racisme, puis ça m'a amené justement à me poser des questions, à dire, voyons donc, comment ça que le monde, tu sais, manque de respect comme ça, puis tu sais, de la frustration aussi, beaucoup de colère. Fait que
surtout à 16 ans, tabarnak.
Puis même avant ça, moi, j'ai commencé à jouer à 8 ans, 7-8 ans au hockey, ça fait que, puis ça a commencé dans ces années-là, ça fait que, après ça, ben là, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à l'histoire des Noirs aux États-Unis. J'ai vu un Mike Tyson qui avait fait un reportage où il était interviewé, puis il disait que lui, maintenant qu'il boxait, il allait plus jamais se faire manquer de respect, puis tout ça. Puis j'ai vu aussi Mohamed Ali qui défendait les Noirs aux États-Unis, puis qui travaillait, tu sais, qui avait tout dans l'histoire. Donc,
les droits civils.
Exactement
tout
ça.
La ségrégation.
Exact. Fait que moi, c'est comme ça que ça, j'ai venu qu'à m'intéresser à la boxe. Puis aussi, je me disais, crème, je vais me faire respecter. Tu sais, en étant un petit gars, mais tu sais, on faisait du casse-gants après les matchs, souvent dans la chambre d'hockey.
Ça veut dire que tu
ouais, on mettait le casse d'hockey, puis les gants, puis on y allait bang bang. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais pas si pire. Tu sais, j'étais capable de tenir mon bout.
Moi, j'ai fait ça, puis je me suis rendu compte, j'aime pas ça, la violence.
Non. Ouais, c'est ça. C'est là qu'on voit, tu sais. Moi, ça a semé une graine, puis après ça, j'ai commencé à m'intéresser plus à la boxe. J'étais allé justement pour m'entraîner au gym, mais là, ma mère, elle voulait pas, elle voulait rien savoir que je fasse de la boxe.
Pourquoi?
À cause de la violence, puis elle voyait ça comme un sport un peu de...
Puis ça allait t'encourager d'être dans cette voie-là dangereuse.
Exactement. Puis... Donc, okay. Mais quand même, j'ai trouvé une façon de détourner ça, puis j'étais allé au gym. Dans le temps, c'était Fernand Marcotte qui avait une école de boxe là, à Québec, puis que je suis allé là. Puis c'est comme ça que ça a commencé tranquillement, puis que la passion a pris place là, pour la boxe, pour ce sport-là.
Puis t'as commencé la compétition...
J'ai commencé plus à 18 ans la compétition.
Okay. Fait que j'ai fait ça, mon c'était premier amateur, combat.
Amateur, oui. Ouais. Fait que dans le fond, en 2000 exactement, j'ai fait mon premier combat amateur. Ça, c'était à Beauport, dans une salle communautaire. Je me suis battu contre un gars de Shawinigan, je pense que c'est Marc-André Hamel, en tout cas. Puis j'ai knocké en 45 secondes.
OK. Fait
que, puis là, c'est comme ça que j'ai dit, OK, là, on a peut-être quelque chose à faire.
Puis ça, c'est-tu été de même, tu sais, c'est arrivé, t'as enchaîné les victoires rapidement, même du côté amateur?
Ouais, du côté amateur surtout, j'enchaînais beaucoup les victoires, puis beaucoup de knockouts.
Rapidement?
Ouais, rapidement, ouais. Puis j'étais un boxeur qui était... Soit j'étais plus petit, mais j'étais peut-être 215 livres, mais tu sais, j'étais explosif.
T'as déjà été petit, toi?
Ouais, plus petit que qu'est-ce que je suis là, en tout cas.
Pour le monde qui savait pas, t'es 6 pieds 3, combien de livres?
Là, en ce moment, j'étais à 270, ça va être 275.
Ah,
c'est sacré,
mon gars.
Ouais. Puis, en tout cas, j'aimerais ça rebaisser éventuellement, là, on parlait, mais c'est ça. C'est sûr que dans le temps, quand je boxais à 215, tu sais, j'étais...
Ah, c'est ça, il y a pas un gros de gras là-dedans.
Non, c'est ça. Puis j'étais rapide, puis j'étais explosif. Puis j'aimais ça donner un show. En fait, j'ai tout le temps aimé ça. J'étais un peu show-off dans la vie, là. Puis ça, c'est une autre prise de conscience que
ça
j'ai
ça veut dire quoi, ça, donner un show? Ça veut dire que...
Ben, knocké, mais tu sais, même...
Tu nargues un peu.
Un peu fendant. Puis même aussi, tu sais, comme même quand je joue au hockey, tu sais, je score un but, puis je voulais faire une petite danse à la Deion Sanders. Je sais pas si tu te souviens de ce joueur de football-là. Dans le temps, aussitôt qu'il faisait un toucher... C'est lui qui a parti la mode un peu, là, faire des danses après les toucher. Fait que c'est okay. Ça. Fait que moi, je suis quand même... je suis né en 81.
Ouais.
Fait que je suis rendu à genre 43 cette année. J'ai 42 ans.
Puis là, c'est ça, tu disais que toi, t'aimais bien ça, narguer le monde. Ça veut dire que t'aimais ça être le méchant, entre guillemets. Tu sais, c'était un combat de lutte.
Le méchant en boxe, c'est plus aussi que, tu sais, dans ces années-là, on dirait que... Tu sais, puis encore là, moi, c'est comme si j'avais tout le temps le goût amer un peu de ma carrière de hockey, tu sais, au hockey, tu sais, quand t'étais noir, tu sais, même à Québec,
le racisme,
tu sais, un blanc contre un noir, tu sais, c'est comme si je voyais toujours un peu ça plus jeune, plus maintenant nécessairement, mais ça fait que je me sentais un peu comme celui qui, tu sais, qui avait le rôle un peu plus...
Outsider,
ouais, un peu plus outsider, tu sais, que justement que qu'il fallait que je fasse ma place puis qu'il fallait que je travaille plus fort pour me faire voir.
Fait que c'est pour ça que tu voulais donner un show puis
aussi.
Tu voulais pas juste offrir une belle performance.
Exactement ça.
OK. Puis là, comment que ça s'est envenu? C'est quoi, il y a du monde qui se sont mis à s'intéresser à toi?
Ben en fait, c'est que je gagnais mes combats. Ça fait que quand que j'ai gagné les gants dorés pendant pratiquement de 2003 à aller jusqu'à 2008, j'étais champion du Québec. En 2006, je suis devenu champion canadien. Donc, j'ai gagné avant, c'était à St. Catharines en Ontario. Okay. Donc, je suis devenu champion du Canada amateur. Puis là, ça m'a fait boxer international beaucoup. Tu sais, je me suis battu au jeu de la francophonie en Afrique, jeu du Commonwealth. Je m'étais classé jeu du Commonwealth. Je suis allé en Angleterre. Je suis allé... au Venezuela, je suis allé un peu partout dans le monde.
Puis ça, c'est tout ça amateur?
Amateur, tout ça amateur. Quand tu boxes amateur, puis que t'es champion du pays, mais ça te fait voyager énormément.
Ah, ça, c'est cool, ouais, ça c'est fou. Pour un petit gars de Québec.
Exactement.
Ça te fait voyager, voir du pays. Mais c'est quoi la différence entre amateur et professionnel? Parce que la façon dont tu parles, on dirait que
Ouais, que c'est pro.
C'est aussi prestigieux que
c'est prestigieux. Puis dans le temps, j'avais un carding. Ça me donnait à peu près 52 000 par année, tu sais, pour faire mon sport. Mes études étaient payées. Puis j'avais même... mes études étaient payées. Mon université pouvait être payée. Puis j'avais un cellulaire de payer aussi. Okay. Puis l'Internet par Bell. On était comme commandité par Bell aussi.
OK. Quand t'étais champion. C'était qui te donnait ces bourses-là?
Ça, c'est le gouvernement.
Ah, OK. Ouais, fait que t'étais gouvernemental, puis on subventionné.
Subventionné. Puis j'avais une autre bourse au niveau provincial aussi, qui était plus petite. Mais quand même...
Mais Chris, tu peux vivre de ton sport.
Je pouvais vivre avec de ça à ce moment-là.
OK. Puis là, pourquoi t'as décidé de switcher à...
Professionnel, parce que j'ai perdu... j'ai perdu deux combats, en fait, contre Didier Ben. C'est drôle parce qu'après ça, je me suis rebattu professionnel contre lui. Okay. Puis là, je l'ai battu, mais amateur, dans ces années-là, ce qui est arrivé, c'est que moi, je me suis fracturé le pouce au championnat canadien, puis je me suis fracturé l'autre pouce en Finlande.
Okay.
Puis il y avait les qualifications des championnats canadiens pas longtemps après. Fait que, tu sais, j'étais pas à mon 100%, mais tu sais, je veux pas donner d'excuses.
Mm-hmm.
Puis le coach de Didier Benz, qui était très, très bon aussi à l'époque, tu sais, m'avait joué un peu dans la tête, là, je dirais. Là, fait
que, ça veut dire, ben, ça? Il était venu te parler?
Ouais, il venait me parler, tu sais. Peut-être pas, il me disait pas « je vais perdre », mais tu sais, il avait le tour, tu sais. Puis, tu sais, en tout cas, aujourd'hui, il est malheureusement décédé.
Fais attention, pas te blesser, là.
Ouais, non, quasiment ça. Okay. Mais c'est un gars qui connaissait la game vraiment bien, là. Okay. Puis aujourd'hui, il est décédé, malheureusement, Claude Bélanger. Pensez pour lui. Mais, tu sais, on est tout le temps resté en bon terme quand même. Mais, tu sais, même Didier, contre qui j'avais perdu à l'époque, je suis resté en bon terme. Puis même si que je l'ai battu en 2013 au Colisée de Québec. Puis on a tout le temps été proches quand même comme amis. Puis tout ça pour dire que, tu sais, amateur, c'est ça, ça m'a fait vivre des belles expériences. Mais quand j'ai perdu contre lui la deuxième fois, mon coach m'a dit, tu sais, tu commences à vieillir. Dit, tu sais, si tu veux faire plus d'argent, ce serait bon qu'on aille professionnel. Puis il y avait Interbox à l'époque, tu sais, qui s'était montré intéressé à me faire combattre. Tu sais,
des adversaires.
À me trouver des adversaires, tout ça. Puis dans ce temps-là, c'était Lucien Boutet, la grande vedette, là, tu sais, d'Interbox. Puis il se battait souvent au Centre Bell à des gros shows. Fait que c'est comme ça que j'ai fait que j'ai tourné professionnel. Puis j'ai fait mon premier combat justement en sous-carte de Lucien Boutet contre Librado Andrade. Là. Ça avait fait un gros scandale puisqu'à la fin, au 12e round, Lucien Boutet était ébranlé puis il avait réussi à se relever comme à la dernière seconde.
Mm.
Puis la cloche avait sonné. Puis finalement, en tout cas, il avait été sacré vainqueur. Puis c'est ça, moi, je m'étais battu contre Stéphane Brutus Tessier à ce moment-là. Au Centre Bell. Ça a été mon premier combat professionnel.
Puis ça, t'étais-tu stressé de faire ton premier combat?
Ben oui.
Ah ouais, même si t'avais déjà toute cette expérience-là comme amateur?
Parce que là, t'as plus de casse. Moi, quand je boxais amateur, j'avais un casque. C'était trois rondes.
Avec des genres de rails.
Exactement ça. Ouais. C'était des trois rondes.
Comme quand tu fais du sparring, dans le fond. Là,
ouais, un peu. Mais puis les gants, c'était des 10 ans sparring, mais tu sais, c'était fait différemment, puis le but de la boxe amateur, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, c'est plus de marquer des points à l'époque. Mais, tu sais, même si j'envoyais les gars au tapis, ils disaient que c'était plus marquer des points. Aujourd'hui, la boxe amateur a quand même changé, puis on voit que c'est beaucoup, tu sais, de faire mal, puis de knocker, puis quand même, l'adversaire s'est rendu plus ça. Ils ont pris plus un virage... comme la boxe professionnelle, même la boxe amateur, c'est sûr que les gars décident de passer pro peut-être plus vite maintenant.
Rapidement, ouais.
Mais à l'époque, c'était plus de marquer des points. Puis c'est ça, mais quand moi j'ai tourné pro, mais là, il n'y a plus de casse. Là, c'était vraiment. Là, c'est vrai que c'était faire un show. Des gants beaucoup plus tight.
OK.
Puis qui font mal. Les bandages en dessous, c'est ton coach qui te tape les mains.
Ouais.
Puis tu sais, le but aussi, c'est de faire des knockouts. Pour attirer l'œil des fans.
Ben ouais. Puis toi, t'es poids lourd, là, tu sais. Fait que déjà, là, c'est spectaculaire.
Exactement, aussi.
Puis, tu sais, tu disais que t'étais vraiment stressé.
Ben, vraiment stressé. Je veux dire, j'étais stressé, oui.
Ouais.
Mais, tu sais, c'était pas comme. Admettons, mon premier combat amateur, ça, j'étais stressé. Incroyable. Je me vidais le corps, je buvais une bouteille d'eau, j'allais tout de suite aux toilettes, j'appissais, là.
Ah ouais.
Oh, c'est incroyable. Sauf que, tu sais, professionnel, là, on dirait, tu sais, j'avais un bon background quand même. J'avais 70 combats amateurs. Fait que, tu sais, Puis j'ai un boxeur international, des fois tu te retrouves dans des pays où ce que tu sais même pas c'est qui compte, c'est pas les noms des gars là, tu arrives là-bas puis OK, ah, tu ouais? vas te battre contre lui, ah, tu vas te battre contre lui. Hein, OK, c'est beau. Puis c'est ça, c'est que tu sais c'est facilement.
Est-ce que t'as une anecdote de m'emmener, t'étais surpris ou
ben c'est juste que quand je suis allé justement en Afrique, moi je trouvais que tu sais c'était intimidant quand même, tu arrives en Afrique au jeu de la francophonie en 2005. T'sais, les gars, t'as des pays, le Cameroun, t'avais l'Égypte, t'avais, tu sais, plein mm-hmm. de... La Russie, t'es-tu là? Non, la Russie, t'es pas, c'était au Venezuela, mais tu sais, t'avais plein, c'est sûr, parce que c'est le jeu de la francophonie, donc c'est des pays francophones, mais plein de pays, la France, t'es là, tu sais, pis tu vois plein de gars, pis moi, je m'imaginais, ah, c'est-tu lui, peut-être c'est lui, tu sais, genre, peut-être ma balle contre lui, pis tu sais, j'étais facilement impressionnable un peu, des fois... par la stature, puis je me rappelle, il y avait un Camerounais, là, il avait pesé 300 livres, hein, mais tu sais, en shape, là.
Ah ouais,
mais les
immense.
Gars, ils savaient pas boxer. Tu sais, comme, il était pas super bon en boxe, mais il était impressionnant
à
voir, ouais, tu sais. Ouais. Mais c'est plus ça, mais une fois que tu voyais boxer, tu étais comme...
Okay,
tu étais plus
chances.
À l'aise, mais comme quand je suis allé aussi au tournoi Ringside en 2005, en 2006, ouais, aussi en 2005, même année, tournoi Ringside aux États-Unis, hey, là, t'as j'étais à des phénomènes, là, des méchantes pièces, là, des gars de 6 et 6, 6 et 7. Mais tu sais, c'est comme, une fois que t'es dans le ring, c'est complètement différent. Okay. Tu sais, des fois, tu vas voir des gars qui ont des shapes incroyables, puis finalement, tu sais, c'est un sport, puis tu vois qu'ils savent pas boxer tant que ça ou sont pas si efficaces.
Ils sont remplis d'eau.
Remplis d'eau, hein, aussi, peut-être. Fait que c'est ça, non, mais t'es capable de justement de les dégonfler facilement.
Ouais, ouais. Mais ben ouais. C'est ça, j'imagine, parce que c'est aussi, c'est beaucoup dans le mental. Là,
ah, c'est mental. C'est un sport qui est très mental.
Ouais,
t'sais,
ouais.
La boxe, tu sais, puis aujourd'hui, j'en prends encore plus conscience, tu sais, à quel point j'ai des combats que si j'avais été moins intimidé, ben c'est sûr, il y a le côté préparation. Mais tu sais, moins, tu sais, que l'adversaire avait peut-être moins joué dans ma tête, ou tu sais, quand on fait la pesée officielle, tu sais, que tu regardes dans les yeux, puis tout ça, là, ça a un impact quand même, tu sais.
Ah,
ben,
ouais.
Oh, mais oui, ça a un impact. Tu sais, dans le sens que, tu sais, c'est là après, tu sais que la prochaine fois que tu vas revoir ce gars-là, à moins que tu le recroises, tu sais, quelque part dans la chambre à l'hôtel, mais tu sais, souvent, c'est la prochaine fois, ça va être dans le ring. Puis là, on va se taper dessus. Là.
Ouais, puis c'est là que ça se passe.
C'est exactement.
Ah ouais.
Ouais, puis la boxe pro, ça veut pas, tu sais, c'est pas. Tu sais, on va te faire mal. Là.
Ben oui,
se faire
knocker,
il n'y a pas
dangereux.
Rien de fun. Là. Mais oui, c'est dangereux.
Ah ouais. Tu t'en vas te battre pour ta vie là, là-dedans.
Exactement, carrément. Puis il y en a qui ont laissé leur vie, tu sais, dans le ring.
Là. Ben oui. Fait que là, t'es au Centre Bell, ton premier combat de pro.
Ouais.
Puis comment que ça se passe?
Ça se passe très bien, honnêtement. J'ai gagné une décision unanime, mais contre un gars qui était extrêmement tough. Là. Stéphane Brutus Tessier, c'était un gars qui avait déjà une renommée pour durer dans tous les combats. Je pense que c'est jamais fait knocker. Je peux pas dire exactement quand est-ce qu'il combat, une trentaine professionnels, plus que ça. Moi, je pense une quarantaine professionnels. C'est jamais fait knocker. C'est battu contre tout le monde international. Fait que, tu sais, je savais que ce gars-là, je m'étais battu deux fois amateur contre lui. Une fois amateur contre lui. Ça avait fait un combat que j'avais dominé, mais quand même, tu sais, c'était un encaisseur.
Mm-hmm.
Fait que c'est exactement la même chose qui est arrivé au niveau professionnel.
Okay.
Mais ça a donné un bon show quand même pour les gens qui étaient sur place.
Mm-hmm. Mais ça a quand même été vite tes débuts parce que,
ouais.
Tu sais, t'as enchaîné plusieurs victoires dessus.
Ouais, j'ai eu 7 victoires,
ouais.
0 défaite,
de
sans
suite.
Avoir de promoteur.
Ouais.
En fait, c'est Interbox qui me faisait boxer quand même, mais j'ai jamais été protégé. Au début, les 7 premiers combats, c'était avec Interbox Plus, sans être protégé. J'ai gagné. Puis ensuite, c'est le groupe Yvon Michel qui m'a offert un combat au Colisée de Québec aussi. Puis là, j'ai connu ma première défaite. Puis tu sais, j'ai pas bien préparé. Il y a eu plein de choses là, qui se sont passées. Là. Donc,
c'est quoi ça veut dire, ça, quand tu dis que j'étais pas protégé, tu sais, j'avais pas de promoteur, tu sais, pour les simples paysans comme moi qui comprennent
je
ce langage-là.
Parle comme si,
non, non, t'as pas
à
t'excuser, mais tu sais, c'est qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Mais ça veut dire que, tu sais, les promoteurs de boxe, c'est leur, tu sais, mettons, je prends aujourd'hui Eye of the Tiger pour ne pas les nommer, ou peu importe le promoteur, lui, il va chercher les boxeurs. Puis lui, son but, c'est que ses boxeurs deviennent un jour champions du monde. puis qu'il fasse de l'argent. Mm-hmm. Fait que dans le fond, lui, c'est une business. Puis il veut protéger le plus possible ses boxeurs, tu sais, les faire gagner, puis avec des bons combats quand même pour que les gens disent que c'est un méchant bon boxeur, puis tu sais, que ça soit bon. Mais en même temps, il veut pas que son boxeur perde.
Le moins de risque possible.
Le moins de risque possible.
Ou qu'il se blesse. Ouais.
C'est exactement. C'est fait que, tu sais, pour faire monter sa carrière, puis qu'à la fin, tu sais, il puisse se battre en championnat du monde, puis faire récolter le maximum d'argent possible.
Ben ça, j'ai déjà entendu ça, tu sais, qu'il y en a qui reprochaient ça à certains promoteurs, que, tu sais, il fait exprès d'y donner des mardes, pour justement, mettons, de faire monter sa fiche de victoire.
Exact.
Puis que là, après ça...
Ben oui, c'est sûr, c'est certain là, qu'il y en a qui font ça, puis tu sais, ça a longtemps été ça aussi pour la majorité des boxeurs. Pour moi, tu sais, je me trouve un peu, c'est pas que c'est touché, mais tu sais, je veux pas me faire d'ennemis en parlant de ça, mais tu sais, c'est clair que il y a les promoteurs vont monter des fiches un peu à leur boxeur, tu sais, quand tu vois des fois des gars de 20-0, tu sais, 25-0, Il y a juste peut-être Floyd Mayweather qui a vraiment affronté toute la crème, puis que sa fiche est représentative, même s'il n'y a pas de défaite. Mm-hmm. Mais souvent, il y a des gars que il y a d'autres bons boxeurs. Faut pas oublier ça. C'est mondialement. Puis nous autres, des fois, on focus sur notre petit Québec. Ah, lui, il est fort, il est fort. Mais va-t'en dans d'autres pays, tu vas voir qu'il y en a plein d'autres qui sont bons. Puis s'ils affrontaient les autres aussi bons que ça, que lui, mais ça ferait des méchants combats, mais tu sais, souvent c'est une question d'argent, puis justement de protéger le boxeur pour pas qu'il y ait de défaites ou qu'il baisse dans les classements, parce que ça peut être long avant de remonter dans le classement.
Mais quand, mettons, quelqu'un il est champion du monde, tu sais, parce que ça, j'ai catché, il y a comme plusieurs ligues de boxe.
Ouais, c'est... Plusieurs commissions.
Commission, ça serait le meilleur terme. Mais tu sais, ça, c'est quoi? Il y en a-tu qui sont moins bonnes que d'autres?
Il y a des commissions qui sont moins reconnues. Tu sais, comme la plus grosse, c'est association, commission, peu importe. C'est la WBC, tu sais, qui est
la
plus prestigieuse.
OK, top.
Quand t'es champion WBC, champion du monde WBC...
Ça, c'est vraiment à travers le
c'est
monde.
C'est nice, exact. Okay. Mais tu sais, comme moi, je me suis battu en championnat du monde pour la WBU, tu sais, qui était vraiment plus mineure, mais ça m'aurait fait monter un peu d'un classement, puis ça te donne une ceinture pareil, puis tu peux dire je suis champion du monde.
Ouais,
mais
t'sais,
mais si tu regardes, tu sais, par où je t'ai passé pour te rendre jusque-là, des fois, tu dis, ça vaut pas, tu sais.
C'est pas équivalent.
C'est pas équivalent.
OK. Clairement. Mais par exemple, sûrement que ça te donne peut-être un titre pour affronter un autre plus gros.
Exactement, exactement.
Qui, effectivement, qui font ça un peu.
Ouais. Ça, c'est clair et net. Puis dans plusieurs autres sports ou d'autres choses dans la vie, tu sais, quand t'as un titre, mais tu sais, ça te donne des fois des petits...
Privilèges.
Ben, pas privilèges, mais plus de crédibilité, si on peut dire, ou plus de prestige. Fait que c'est ça. Ouais.
Pour pouvoir être considéré à affronter...
Exactement.
...une autre association.
C'est
ça. OK.
Ouais.
Fait que là, t'as remporté tes 7 premiers matchs, arrive... La défaite, comment tu prends ça?
J'ai pris ça très difficile parce que moi, à ce moment-là, quand je suis passé professionnel en boxe, moi, je travaillais encore. Tu sais, je travaillais aussi en même temps. Okay. Tu sais, puis j'essayais de trouver des fois des commanditaires ou des manières, tu sais, de travailler moins ou, tu sais, puis mes trainings
pour
aussi.
Pour compenser.
Exactement. Puis à ce moment-là... moi, j'étais agent correctionnel. Je travaillais à la prison de Québec pendant 2 ans. Puis je faisais des 12 heures de nuit. Je faisais des 12 heures des fois de jour. Puis le climat, on s'entend que quand tu travailles dans une prison, c'est pas ce qu'il y a de plus plaisant. Là, ça fait que ça avait quand même un petit impact aussi sur mon moral, sur la mort que je me sentais. Dans ce temps-là, le stress, là, j'avais fait de la pelade. Je sais pas si c'est quoi de la pelade. C'est je faisais des plaques où ce que je perdais des cheveux.
Oh.
À cause du stress.
Ah ouais. Juste pour donner aussi, il y a le psoriasis.
J'avais été voir, puis j'étais allé voir un médecin, justement, puis il dit « Ça, mon gars, c'est parce que t'es trop stressé. » Fait que, tu sais, c'est comme une genre de maladie auto-immune qui fait en sorte que...
Une réaction.
C'est ça. Fait que le stress de la boxe, le stress aussi de la prison. C'est que là, j'avais fait un switch. Je me souviens pas, par exemple, dans ces années-là, je pense que j'avais changé pour agent d'intervention en centre jeunesse. Mais quand même, tout ça faisait en sorte que, tu sais, je travaillais. Puis,
t'étais pas 100% pour la boxe.
J'étais pas 100%. Puis, j'ai fait ça. J'ai eu 3 défaites en ligne.
Mm-hmm.
Dans le fond, en 2000, c'est ça. Les dates, je me souviens plus exactement, mais je me semble que c'est 2011. 2011, ma première défaite.
2010. Ouais, 2011, ouais.
Fait que c'est ça. Ça fait que 2011, ma première défaite.
Après mais ça, c'était unanime. C'était en décision
unanime.
Ouais, décision
que j'ai perdu.
Les deux
contre
autres,
Silvera,
je pense que en TKO.
Ouais, je me suis fait arrêter. Après ça, je me suis battu au Centre Bell contre Bogdan Dinou. Puis je me suis battu en championnat canadien contre Raymond Olubowale, qui lui était 6 pieds 8, 280. Puis lui, je l'ai rebattu. Après ça, j'ai replacé mes affaires dans ma vie. Puis je me suis rebattu contre lui, j'ai knocké au 6e round.
Ah, oh, puis c'est de même que t'es devenu
c'est
champion canadien.
C'est de même
canadien.
Que je suis devenu champion canadien, ouais.
OK. Ben, Seigneur, 6 pieds 8.
Ah, oh, ouais, c'était un monstre, ce gars-là. Puis qu'est-ce qui est drôle, tu sais, tantôt, on parlait un peu, tu sais, d'être intimidé et tout ça. Puis la première fois que je me suis battu contre lui, je m'étais toujours dit, quand lui boxait amateur, que je voudrais jamais me battre contre ce gars-là parce qu'il était trop, tu sais, trop une pièce, puis qu'il savait boxer en plus. Puis finalement, je me suis battu 2 fois professionnel contre lui. Puis je l'ai battu une des 2 fois. Puis même la première fois, je l'avais envoyé au tapis aussi durant le combat. Mais tu sais, qu'est-ce que des fois, je trouve un peu plate par rapport à ma carrière, c'est que tout ça, là, tu sais, il y a personne qui a vu ça ici au Québec, là. Tu sais, moi, je me suis allé me battre à Calgary, tu sais, puis il y a plusieurs demi-combats, même au niveau amateur, puis même professionnel, tu sais, que les gens, ils ont jamais vu. Tout ce qu'ils voient, c'est vers la fin de ma carrière, quand je me suis battu contre Adam Braidwood, que je me suis fait knocker au Centre Bell, ou tu sais, des fois, des combats qui ont été plus difficiles, contre aussi Dylan Carman, ça a passé sur TSN. Genre, je pense que j'étais allé 5 fois au tapis, lui, t'es allé 3 fois au tapis. Tu sais, c'est ces combats-là que les gens se souviennent, mais tu sais, ils n'ont pas eu
les débuts. Genre,
les débuts, ouais. Tu sais, de où ce que je viens.
La première moitié, genre.
Exactement ça.
OK. Puis c'est quoi ça, d'après toi? C'est parce que à ce moment-là, les médias s'intéressaient pas à ça?
Les médias étaient différents. C'était différent, puis il n'y avait pas. Tu sais, les réseaux sociaux, c'était beaucoup moins utilisé, là.
Ouais, puis ici, on vit que pour le hockey, là.
Ouais, aussi.
Puis là, tu sais, moi, souvent, je vois des combats de boxe, mais tu sais, c'est comme TVA Sport.
Ouais, c'est
qui
ça.
Qui l'achète, ouais. Ou qui achète un. Fait que...
Mais aujourd'hui, pour ça, par exemple, les promoteurs, en tout cas, comme Eye of the Tiger, je trouve que il y a une autre philosophie. Puis tu sais, ils prennent plus de boxeurs issus du milieu amateur puis du Québec. Puis ils font boxer beaucoup. Tu sais, ça fait que. Tu sais, je trouve que quand même, tu sais, tantôt...
Ça fait un peu plus rayonner.
Ouais, ça fait plus rayonner, puis pour ça, je trouve ça bon, tu sais, puis justement, eux autres, ils protègent quand même leurs boxeurs, mais, tu sais, ils donnent aussi, tu sais, comme je regarde, là, Makhmoudov qui s'est fait battre en Arabie Saoudite, mais tu sais, ils testent quand même, tu sais, leurs boxeurs, mais ils en ont plus aussi. Fait que, tu sais, comme même Simon King, je sais pas
si Simon King
aussi qui s'était fait battre. Fait que, tu sais...
Je pense que c'était la première fois qu'il se faisait battre, là.
Non, il avait déjà perdu aussi contre Dylan Carman, le même que moi, je m'étais fait battre aussi.
Ah, t'sais, ben ouais, c'est vrai, vous êtes dans la même catégorie.
Même catégorie. Puis moi, puis Simon, on est des chums, là, pareil, dans la vie, là, tu sais. Puis on s'est entraîné beaucoup ensemble. Je me suis battu contre lui amateur une fois. Puis c'est ça, lui, il est un peu plus jeune que moi. C'est pour ça qu'il y a un petit décalage, mais... Puis lui, était signé avec Eye of the Tiger, justement.
OK. Puis toi, est-ce que tu t'es pas fait approcher par eux autres? Ou...
Ben, moi,
t'en
je me suis...
voulais
mon
pas
dernier,
à ce moment-là?
Mon dernier... Ben, j'ai comme été dans une période creuse un peu. Tu sais, moi, ça a été plus en 2000... Je suis passé pro en 2008. Puis tu sais, dans ces années-là, c'était beaucoup Interbox. Il n'y a pas... Puis groupe Yvon Michel qui commençait, mais il n'y avait pas de promoteur vraiment qui signait tant que ça des boxeurs. Tu sais, puis je sais pas, on dirait que... Peut-être aussi une question de choix. Tu sais, on dirait que je cherche même plus à comprendre nécessairement
comment
pourquoi.
Ça s'est fait.
Exactement. Ouais. Tu sais, je me regarde. Je regarde vers l'avant aujourd'hui, puis ça sort. Je peux pas réécrire. Comme c'est mon oncle qui me dit ça, je trouvais ça bon. Il dit, tu sais, tu peux pas réécrire l'histoire.
Mais
fait que clairement pas. Ça fait qu'aujourd'hui, tu sais, j'en veux pas non plus à personne. Tu sais, je me regarde. On essaie de rayonner aujourd'hui autrement.
Puis là, tu sais, quand tu parles, mettons que tu as eu 3 défaites consécutives une après l'autre, ça doit te jouer dans la tête.
Aussi.
Là,
ben oui.
Comment que...
Hey, tu pars de 7-0, Puis là, tu t'imagines, un jour, je vais être champion du monde. Là, boum, oui, trois défaites.
T'as toute la confiance du monde.
Exact.
Mais si personne va m'arrêter.
Non, c'est ça. Mais je trouvais ça dur quand même à ce moment-là. Parce que justement, je travaillais quand même. L'argent rentrait pas tant que ça.
Mm-hmm.
Tu sais, il y avait des périodes. J'ai eu des périodes très creuses aussi dans ma carrière de pro, tu sais, qui s'est échelonné sur 10 ans. Là. Fait que. C'est ça. Fait que j'ai comme pris des combats que j'aurais peut-être pas dû prendre. Tu sais, comme lui, ce combat-là, ma première défaite contre Silvera Louis, tu sais, j'avais une entorse cervicale pas longtemps avant. Mon coach, je sais pas, il y avait des trucs personnels. Il m'entraînait pas beaucoup. Fait que, tu sais...
Fait que tu avais pas la meilleure encadrement.
Pas en tout. Okay. À ce moment-là, vraiment pas. Fait que, tu sais... Puis ça a été comme ça. Après ça, je reprends un autre combat pour faire un peu d'argent parce que l'autre contre Bogdan Dinu, qui était un Roumain qui avait été champion du monde junior puis tout ça, puis qui était signé pratiquement par Interbox. Tu sais, je voyais pas les chances ben de gagner, mais je me disais, ah, ça va être un... Tu sais, dans ce temps-là, c'est pas les grosses bourses non plus. Hein. C'était 4 000$. Je disais, ah, ça va être un 4 000$.
Mm-hmm.
Puis je me suis fait fracturer à joue, dans le fond, pour 4 000$. Tu sais, c'est...
Ah ouais. Bon,
fait que, tu sais, tu vois, ça, c'est le côté un peu plus sombre, tu sais, des fois, de la boxe, que le monde ne savent pas. Tu sais, le monde, il s'imagine, ah, le gars, il fait du cash, hein, il s'en fout, tu sais, la santé. Mais crime, quand tu te fais taper de même, tu te fais casser une joue, tu fais une commotion cérébrale.
C'est un coup de dé à chaque fois.
Tout le temps. Puis ça a des répercussions aussi sur, tu sais, comment tu te sens les journées après, les semaines après, les mois.
Ben oui, autant physiquement que mentalement.
Exactement
là,
t'sais, ça. T'sais, c'est direct, là.
Ben oui, c'est un coup sur ton ego, sur ta fierté. Ouais. Pis...
Ben, parce que comme une façon, t'sais, un peu, c'est comme se faire humilier. Là.
Mm-hmm.
T'sais, tu te fais humilier. T'sais, comme quand j'ai perdu ma plus grosse humiliation, vraiment, ça a été contre Adam Braidwood au Centre Bell. Mais même avant ça, en 2015, quand je me suis battu contre Dylan Carman, sur TSN à Toronto. T'sais, ça aussi, je pensais pas perdre ce combat-là, jamais. Là. Puis finalement, ça a fait une guerre. Deuxième, si tu veux aller voir ça un moment donné sur les highlights sur YouTube, tu vas voir, c'est incroyable. Moi, j'aurais écouté ça, puis ça n'a pas de bon sens. Puis à la fin, ça a fini, je me suis fait knocker, perte de conscience. Puis j'étais à terre, ça prend du temps.
Ça, c'est avec Adam Brickwood?
Non, ça, c'est contre Dylan Carman.
Dylan Carman,
ouais,
OK.
Exact.
OK, ouais, c'est ça. Parce que t'avais même, je pense, c'est Stéphane Larouche qui disait qu'il avait qualifié ça de combat à la Rocky.
Ouais, exactement ça. Exact, ah, carrément. Puis ça a été classé, en tout cas, selon les dires des gens sur place, comme le meilleur combat des 10 dernières années au Canada.
Ah oh, ouais?
Toutes catégories confondues.
À cause des deux, vous tombiez tout le temps.
Ça se tapait, là, oh, c'est incroyable. Là. Les gens se relevaient, puis voyons donc. Puis tu sais, moi, je pouf, un crochet de droite. Oh, lui, c'est lui qui tombe. Après ça, il revient, boum, une main droite. Hey, boum, c'est moi qui tombe. Oh. Tu sais, là, j'en ris, mais tu sais, quand tu y penses, pareil, là. Puis tu sais, dans ces années-là, moi, j'avais commencé à... Tu sais, je faisais le party pas mal aussi entre mes combats. Puis je me rappelle, j'avais des chums qui étaient venus. Puis tu sais, on est sorti le soir, on a popé les bouteilles puis fait les fous un peu.
Ouais.
Fait que tu sais, je me dis, crème, j'aurais pu mourir là c'est ce soir-là.
Ah oh, ouais?
Ben oui, ben oui.
Genre à cause des commotions.
Commotions, puis tu sais, j'étais bizarre, là. Tu sais, j'étais pas... J'ai retrouvé des photos, là, que tu sais, je prends des photos avec mes chums, j'ai un œil à moitié fermé, tu sais, c'est... Puis à cause des échymoses, c'est
ah,
pas
ouais.
À cause de la boisson, puis ouais. En plus que j'ai rajouté ça. Fait que tu sais, des fois, c'est prendre soin de soi. Je prenais pas soin de moi pendant toutes dans ces années-là. Puis après ça, j'ai refait un autre combat. Avant ça, j'avais fait un combat aussi contre Lucas Brown en Angleterre. Ça aussi, lui, était 19-0, 18 knockout. Je me suis fait knocker là aussi. Fait que tu sais, quand j'ai refait l'inventaire de tout ça, je me dis, tabarnouche, tu sais, ça en fait là, des coups à la tête, là, puis tu sais. Chanceux de pouvoir être capable de te parler ici aujourd'hui puis tu sais d'avoir un discours qui est quand même pas si peu
compréhensif.
Oh, ouais,
ouais, c'est ça. Ouais. De pas être un légume.
Non, c'est ça, carrément.
Okay. Oh, ouais.
Parce que tu sais, en plus, je sais pas si t'as vu ça, mais tu sais, mon meilleur chum, moi, est décédé. Là. David Whittam, il est décédé après un combat de boxe.
Ben oui.
Fait que tu sais, moi, ça, c'est quelque chose aussi qui m'a énormément affecté. C'est décédé en 2018. Puis, tu sais, dans le fond, pas longtemps avant, ben après, sans moi, j'ai fait mon dernier combat. Puis j'ai comme compris, là, en introspection aussi, que, tu sais, la prochaine fois, ça pourrait être moi aussi, tu sais, qui se ramasse là. Fait que
tu t'es rendu compte que t'avais fait un peu le tour. Puis
j'avais fait le tour de la boxe, tu sais. Puis des fois, tu sais, le monde était comme il est, là. Tu sais, des fois, il y a du monde qui m'écrit, ouais, là, aujourd'hui, t'es vraiment en forme, t'es bien, man, tu devrais faire un retour. Hey, j'ai 42 ans. Deuxièmement, tu sais, je veux dire, ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus pantoute. Ça me tente encore de me défier puis d'avoir des défis personnels dans ma vie, mais ça m'intéresse plus de recevoir des coups, de mal filer, de me faire humilier, au pire, même devant, je sais pas combien de centaines de milliers de personnes.
Mm-hmm.
Puis tu sais, ça me tente juste d'être en paix puis d'être bien. Là.
J'imagine que tu t'es prouvé que c'était avant de prouver. Là,
exactement.
T'sais,
carrément.
Ben ouais, t'as plus besoin de...
C'est carrément. Puis tu sais, de héros, tu sais, en est, c'est comme l'idole, si je me rappelle, quand j'étais battu au Colisée, que là, contre Didier Benz, que je parlais tantôt, que là, puis j'étais champion canadien déjà avant ça, puis là, je gagne contre Didier Benz au deuxième round dans le knockant. Ben là, tu deviens une vedette incroyable, puis tout ça, mais pas longtemps après, tu sais, le monde, il oublie ça, tu sais, puis, tu sais, quand tu te fais knocker, puis, tu sais, là, le monde, ah, c'est un pas bon, tu sais, ça fait que ça peut virer vite, puis, tu sais, aujourd'hui, ça de m'intéresse
héros à,
plus.
De héros à zéro, héros, rapidement.
Exactement, héros à zéro, puis, tu sais, comme je dis, j'ai fait le tour, j'ai joué au hockey aussi, dans ces années-là, j'ai joué au hockey aussi dans le senior, puis, tu sais, c'est comme, tu sais, à un moment donné, le monde veut te voir, te battre. Tu viens comme une bête de cirque un peu, tu sais. Mais le monde s'en fiche de ta santé. Le monde n'en a rien à foutre, en fait. Tu sais, puis je l'ai vu pour plein de gars, tu le vois dans la Ligue nationale aussi, des toughs qui se sont enlevés à la vie ou du monde, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu réalises, tu dis, OK, ouais, dans le fond, le monde, tout le monde qui sont ici, s'en fiche même de ma santé. Ils s'en fichent de qui vraiment, c'est qui la personne, de qui ma personne. Tout ce qu'ils veulent, c'est voir deux gars en train de se taper dessus puis se faire mal. Sauf que, tu sais, après ça, les journées qui suivent, puis comment tu te sens, puis si t'es down ou quoi que ce soit, là, il n'y a plus personne.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, aujourd'hui, je me dis, ma priorité, même, c'est ma santé physique, ma santé mentale. Puis oui, être en forme, être en shape, mais pour moi et non pas pour personne d'autre. Puis tout ce que je mets sur mes réseaux sociaux aujourd'hui, je sais que ça, je peux inspirer d'autres personnes, mais je le fais en premier lieu pour moi, pour me sentir bien.
Ben ouais, parce que t'avais dit ça, m'emmener, je sais pas si c'est dans ton livre ou dans un article, mais que il y a beaucoup de paraître, là, t'sais, parce qu'il y a beaucoup de high là, quand t'étais à boxe, puis c'est facile de tomber dans le paraître.
Ouais, c'est fou. T'sais, c'est pour vrai, c'est. Moi, en plus, comme je disais tantôt, j'étais un peu show-off, t'sais. T'sais, je voulais, quand j'étais plus jeune, je voulais être humoriste, c'est drôle que. Puis t'sais, je voulais même t'sais, faire du théâtre, peu importe. Puis j'en ai fait, moi. Mais t'sais, c'est comme. À un moment donné, tu viens justement, c'est comme une pièce de théâtre quasiment, tu sais, t'es dans le paraître beaucoup, puis tu veux genre que les gens t'aiment, puis je mettais sur les réseaux sociaux que ça allait bien, que je m'entraînais fort, puis tout ça, mais en vérité, là, tu sais, est-ce que je m'entraînais si fort que ça, est-ce que j'étais si bien que ça, est-ce que ça me tentait tant que ça de faire ce sport-là, tu sais, même jusqu'à la fin, tu sais, avec du recul, je me dis, peut-être pas, hein. Tu sais, oui, je suis content de tout ce que j'ai accompli, puis jusqu'où je me suis rendu. Mais est-ce que moi, tu sais, si c'était pas du paraître puis de ce que les gens allaient dire, est-ce que je me serais rendu vraiment jusque-là? Parce que moi, quand j'étais plus jeune, tu sais, je me disais pas, hey, je vais être boxeur professionnel plus tard, tu sais. Kid, là, moi, c'était genre, je vais faire de la scène, je vais faire rire le monde, je faisais des imitations, plein de trucs. Puis, tu sais, à un moment donné, la vie a dévié un peu, je me suis rendu là-dedans. Puis, comme je te dis, tu sais, ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Mais tu sais, j'ai plein de rêves, j'ai plein d'appréhensions, j'ai plein de défis que je veux relever encore aujourd'hui, tu sais. Ma blonde est enceinte, tu sais, avoir une famille, tu sais, avoir bâtir quelque chose, tu sais, puis justement, tu sais, avoir de quoi, tu sais, à laisser un héritage, mais pas en lien nécessairement avec, tu sais, le fait que je me sois battu, tu sais, dans un ring.
Mais que ça soit pas juste ça.
Exactement ça. Parce qu'on a une vie aussi après. Puis c'est ça aussi que j'ai réalisé. Là.
Ouais.
Que, il y a une vie après la boxe. Carrière, exactement ça.
Puis là, c'est quoi tu dis, dans le fond, c'est que peut-être tu faisais pas ça pour les meilleures raisons possibles ou.
Ben non, je pense, ben je l'ai fait parce que j'aimais ça. Mais tu sais, c'était peut-être aussi beaucoup pour. Ben, pas nécessairement l'attention, mais le respect, avoir le respect. Tu sais, je pense que c'est bon aussi, mais. Jusqu'à quel point, tu sais, se faire me taper dessus.
Il y a des pour pis il y a des contre.
Des pour pis des contre.
Okay.
C'est exactement ça. Pis tu sais, des fois, le soir, là, t'arrives au gym, là, pis ça te tente pas de te taper ça, avec, tu sais, t'entraîner puis à taper un autre gars. Puis même des fois, j'allais à Trois-Rivières, à Montréal. Je suis venu extrêmement souvent à Montréal, tu sais, m'entraîner, tu sais, puis pour supposément m'améliorer, mais tu sais, en même temps, tu sais, tu tapes, tu manges des coups, l'autre aussi veut te faire mal, puis tout le temps dans un esprit de confrontation. Mm-hmm. Tu sais, t'es jamais comme en paix, tu sais, parce que tu sais que tu vas mettre les gants avec un tel, ah ouais, lui est tough, man, ah, ça va être tough. Tu sais, ça fait que, est-ce que je me couchais le soir pis je me disais, ah, je suis bien, je suis en paix. J'avais tout le temps un petit côté dans ma tête pareil.
En mode survie, en mode guerre.
Tout le temps. Ça fait que, tu sais, c'est un peu, tu viens à la limite avec l'hypervigilance, à la limite, là. Tu sais, c'est comme, c'est comme un gars qui est un soldat qui s'en va faire la guerre. Tu sais, c'est un peu ça pareil. Tu sais, t'es tout le temps, ah, ok, ouais, il faut que je sois tough. Ah, ouais, il faut que je m'entraîne. Ouais, il faut que je fasse ci. Ouais. Fait que, tu sais, aujourd'hui, je le fais quand même. J'ai tout le temps gardé ce côté-là, mais, tu sais, je veux amener ça pour que ça soit positif à ma vie, puis justement, que je puisse accomplir d'autres choses.
Mm-hmm. Ouais, Georges St-Pierre, il disait ça, lui, que, tu sais, il adorait la UFC, mais il détestait se battre.
Ouais,
il aimait pas ça aller se battre avec du monde, tu sais. C'est simple, ça faisait partie de
parce que souvent, tu respectes les gars aussi contre qui tu vas te battre. Tu viens quasiment te chummer avec eux autres. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, c'est pour ça que le côté un peu santé, on dirait qu'on met ça de côté.
Ouais. Ou on le prend pour acquis.
On le prend pour acquis. Ou on s'imagine qu'il nous arrivera rien. Puis, c'est vraiment la mort de mon chum David, tu sais, qui m'a fait réaliser que, hein, on n'est pas invincible. Je suis pas invincible. Puis, t'sais, moi, s'il y a bien un gars que je disais, ah, ça, c'était un méchant tough, puis c'était insolide, c'était lui. Puis, tu sais, aujourd'hui, tu vois, t'sais, ça fait que, tu sais, à un moment donné, c'est ça, il faut pas que tu prennes rien pour acquis dans la vie, puis il faut que, justement, je continue à, j'essaie d'évoluer, puis d'apprendre de tout ça, de tout le bagage que j'ai pu accumuler dans les dernières années pour continuer d'avancer, puis de pas faire les mêmes erreurs, mais, t'sais, d'être une meilleure personne.
Fait que là, tout à l'heure, on disait que on parlait, mettons, de tes trois défaites, puis t'es réussi à revenir par la suite.
Ouais, je suis revenu.
Fait que, mais comment t'as réussi, mettons, à faire le ménage dans ta vie, puis à trouver la motivation, la confiance en soi de faire non, celle-là, là, je vais l'avoir. T'sais.
Ben, à cette époque-là, ça a été vraiment d'aller chercher des personnes clés. Une personne
qui... Changer ton entourage
Un peu, mais tu sais, dans le fond, moi, j'avais François Duguay qui était là, qui était mon head coach, qui est resté là. On a fait un meeting, tu sais, on a dit, garde là, il faut que telle affaire change, puis autant pour moi que pour lui. Mais j'étais allé aussi chercher Fabrice Akoué, qui lui était un top préparateur physique. Là. J'aime pas ça qu'on dise préparateur physique, mais en tout cas, je sais que lui, c'était vraiment quelqu'un, tu sais, puis de part aussi, sa manière d'être comme personne, mais au-delà de, tu sais, il connaît ça, pas ça, tu sais, pour l'entraînement, c'était pas ça, c'était plus aussi que lui, tu sais, son éthique de travail,
sa discipline, sa
manière rigueur, de penser, exactement.
Okay.
Ça m'a beaucoup aidé, beaucoup apporté, puis, tu sais, c'est une personne que j'ai toujours appréciée, encore aujourd'hui, je l'appelle à l'occasion, puis j'ai énormément de respect pour lui. Puis lui, justement, il m'a amené ailleurs, tu sais, dans mon entraînement puis dans ma façon de me préparer. Puis là, je suis devenu champion canadien. J'ai battu Didier Ben. J'ai rebattu un autre gars qui venait de la Lettonie. J'ai knocké, je pense, au deuxième round, début du deuxième round. Fait que, tu sais, puis... Mais après ça, tu vois, là, c'est... Là, champion canadien, bat Didier Ben, c'est au cousin. Hein. Là, fait un combat chez nous, tu sais, à Sainte-Foy, au club de boxe. On a fait un gala pro-am, genre, qui dans le fond, une partie amateur, une partie professionnelle. Mais là, tout ça, on dirait que ça m'a un peu monté à la tête. Puis là, c'est là que j'ai commencé à peut-être être un peu trop confiant ou en tout cas faire le party. Pis...
Être un peu autodestructeur.
Ouais, autodestructeur, ouais.
OK.
Puis, tu sais, le... côté un peu végétario, je sais pas, j'étais commandité par le Maurice Nightclub dans ce temps-là, dans ces années-là. Puis je travaillais dans un bar aussi en même temps. Fait qu'en tout cas, il y a plein d'éléments qui ont fait en sorte que j'ai comme perdu mon focus. Puis je suis allé me battre en Angleterre contre Lucas Brown, que je parlais tantôt, qui était 19-0, 18 knockout. Puis je me suis fait knocker au cinquième. Quand je suis revenu ici, là, ça a été... Là, j'ai réellement commencé à avoir des gros problèmes de consommation. Dans le fond, tu vois, c'était en 2015, là, exactement.
Ah, OK. 2014-2015. Parce qu'avant ça, tu consommais, mais ça se contentait, là. Tu sais, t'avais ouais. comme... T'étais un quand même capable
ouais,
de,
c'est ça.
D'être, comment qu'il appelle ça, fonctionnel.
Très fonctionnel. Puis, tu sais, il y a une limite qu'on dirait que, tu sais, j'allais pas... Tu sais, même si j'avais déjà fait le partant en masse quand même, mais tu sais, je sais pas, on dirait que j'étais plus focus, puis aussi, j'étais peut-être plus jeune, je sais pas, j'avais mangé moins de quoi à tête, puis j'avais un meilleur discernement, puis tu vois, après ça, là, ça a commencé à partir tout bord de côté, puis là, je me suis battu justement contre Dylan Carman en 2015 à Toronto, fait knocker encore, où là, ça... C'était incroyable. Parce que j'ai eu d'autres opportunités pareilles. C'est ça qui est incroyable. C'est que, tu sais, la boxe, là, tu peux tirer l'élastique longtemps. Là. Fait que là, je me suis battu à l'Olympia à Montréal. J'ai gagné ce combat-là, mais tu sais, j'étais allé au tapis aussi pareil. Gagne le combat, fais le partant encore après, tout de suite.
T'étais en train un peu de banquer là, tes vieux jours.
Exactement.
En faisant ça. Là,
direct. Parce que c'est une roue qui tourne. C'était tout le temps la même chose. Tout
ça,
le temps.
Mais. C'est ça, mais tôt ou tard, t'allais pogner le fond. Là,
c'est sûr.
C'est ça.
C'est exactement.
OK.
Puis, tu sais, avec les bourses, mais là, tu sais, j'essayais de combler un peu, mais tu sais, je savais pas, tu sais, je plaçais pas mon argent, je faisais le cave. Tu sais, c'est comme si, tu sais, j'aurais pas été plus intelligent dans ma façon d'être puis d'agir là, à cette époque-là, mais on dirait que fallait que je vive ça pour peut-être.
Ouais, fait que tu fasses ces erreurs là pour
exactement
en
ça.
Tirer des leçons.
Ouais, direct.
Fait que tu gagnes champion canadien poids lourd en 2013.
Ouais.
Ton feeling, tu sais, comment que tu te sens?
Un nuage, tu sais, une ceinture champion canadien. Je me suis dit, OK, là, c'est. Regarde, je peux aller chercher le titre nord-américain. Tu sais, je voyais ça comme. T'sais, je viens d'accomplir quelque chose, je vais peut-être me faire signer ou faire, t'sais, quelqu'un va peut-être me donner une chance. Puis t'sais, on cherchait ça là, aussi à cette époque-là avec François Duguay, mon coach. Puis c'est ça, mais finalement, c'est jamais vraiment arrivé. J'ai eu ils m'ont offert de me battre à Toronto. Puis le promoteur, lui, il disait que si je gagnais, justement, il allait s'occuper de moi. Fait que
okay.
C'est ça. J'avais quand même des chances, mais t'sais, c'était jamais... c'était pas acquis. Il fallait que je gagne. Il fallait que je fasse quelque chose pour pouvoir avoir le contrat.
Puis c'est pourquoi t'as pas réussi à gagner? C'était-tu... T'étais pas prêt?
Je pense que j'étais prêt. Contre Dylan Carman, j'étais prêt. Mais je pense aussi, des fois, il y a des choses qu'on peut pas s'expliquer.
Ouais, ça a pas été ta soirée.
Exactement. Okay. Puis tu sais, le combat, là, tu pourrais regarder, puis tu dirais, crème, tu sais, j'avais l'air prêt, puis j'étais là, mais...
Il a tout donné. Ouais.
Lui aussi, tu sais, c'est ça. C'est des poids lourds, ça cogne.
Ouais.
Ouais.
Fait que là, c'est ça. Ça t'a amené un autre combat, une autre opportunité.
Ouais.
Puis tu dis que ça a pas fonctionné encore? Ou,
Ben, c'est juste que, tu sais, à partir de, je te dirais, là, après le combat, tu sais, après Didier Ben, j'ai fait un autre combat que j'ai gagné encore au deuxième round. Puis après ça, ma carrière a jamais relevé, vraiment.
OK.
Tu sais, puis je te dirais que, je pense qu'il fallait que ça arrive, ça.
Ça se passe en même.
Ouais, exact. Parce que je pense que même si j'avais réussi à monter plus haut, mais j'aurais juste retombé de plus haut encore. Fait que, tu sais, puis après chaque, tu sais, je perdais, j'avais une victoire. Après ça, j'étais allé me rebattre, je repars. Puis, tu sais, j'avais pas regagné. Là. J'ai eu un match nul, c'est vrai, parce que je voulais me battre absolument au Centre Bell, au Centre Vidéotron, puis... groupe Yvon Michel m'avait pas mis sur la carte. Fait que j'ai utilisé, là, à ce moment-là, c'est en 2016, je pense. Là, j'ai utilisé mes réseaux sociaux pour dire, regarde, je veux me battre au Centre Vidéotron. Tu sais, reposter cette affaire, tu sais, mon post, tout ça. Puis
pour là,
j'avais
la pression,
mettre la pression. J'avais eu 2000 partages, puis tout ça. Fait que le groupe Yvon Michel a dit, je pense que t'as bien fait ça, c'est qu'on va te mettre sur la carte. Puis là, j'ai eu un match nul.
Okay.
Fait que, t'sais, c'est ordinaire, t'sais, dans le sens, moi, je pensais que j'avais gagné, probablement que l'autre te dirait la même chose, sauf que, t'sais, c'est ça, fait que, t'sais, ça a jamais relevé, comme, vraiment, ma carrière, t'sais, c'est un machin, puis après, ils m'ont offert Adam Braidwood, qui était un gars, t'sais, qui venait de l'Ouest canadien, qui avait fait 3 ou 4 ans de prison pour violence conjugale.
Oh shit, ok.
Oh, un gars qui avait joué dans CFL. Puis tu sais, ça, j'ai jamais compris, mon gars, le pourquoi qu'ils ont fait venir ce gars-là pour me battre contre, sur la carte. Parce qu'à la base, j'étais supposé me battre contre un gars des États-Unis, tu sais, que probablement que j'aurais battu, mais eux autres, ils voulaient avoir un combat que ça allait mieux paraître. Puis tu sais, j'étais pas protégé. Ça fait qu'ils sont allés chercher ce gars-là. Ce gars-là sortait de prison, il avait plus rien à perdre. Encore là, si tu vas voir sur YouTube, tu marques Eric Martel, ça va sortir tout de suite. Eric Martel, Bawelly contre Adam Braidwood. Tu vas voir que le gars, genre, tu sais, je m'excuse, mais il a pas l'air stock. Tu sais, c'est sûr, ce gars-là a pris quelque chose. Tu sais, tu le vois, là, tu sais, je veux dire, puis je veux pas, tu sais, lancer des fausses accusations, sauf que, tu sais, c'est évident. Tu sais, le gars, il est pas à jeun, tu sais, où il y a quelque chose. Fait que, tu sais, puis à la fin, quand je le tape, j'avais fendu l'œil, il me crie après, puis là, finalement, je me fais knocker. Puis c'est ça. C'est que, tu sais, ça a mal fini. Là, à ce moment-là, après le combat, j'ai annoncé ma retraite tout de suite.
Ça a été le dernier combat.
Non, mon avant-dernier combat.
C'est ça, l'avant-dernier.
Puis là, tu sais, c'est comme... Hein, là, c'est comme si là, vraiment, tout venait de s'écrouler. Là.
Puis toi, dans ce moment-là, t'étais vraiment en mode autodestruction. Là,
en plus, en plus, j'avais commencé... ben, ouais.
T'étais pas encore dans le fond,
j'avais
mais...
J'avais pas consommé avant le combat, tu sais, ça faisait au moins un mois et demi que, tu sais, j'avais rien pris pendant tout, je prenais pas la colle. Mais quand même, tu sais, ça reste que je savais qu'après le combat, j'allais faire le party. Puis, tu sais, mais si j'avais gagné, ça aurait été probablement épouvantable. Non. Là, j'avais perdu, mais ça a été encore plus épouvantable pour vrai. Parce que là, ça a été vraiment autodestructeur à fond. Puis, tu sais, ça, c'est que ce soir-là, ça a pas été la joie. Puis ça a duré quasiment un an. Je vais être bien honnête avec toi, là. Parce que je me suis auto-détruit là, pendant un an de temps.
C'est un party qui a duré un an.
Un an, oui. Assez pour me mettre dans la merde là, à bien des niveaux financièrement et tout ça.
Ah ouais.
Ouais.
Mais tu sais, avant qu'on aille là, tu sais, j'aimerais ça savoir. Ben c'est ça, c'est quoi ton opinion justement pour le monde qui font des stéroïdes, j'imagine?
Ouais.
C'est-tu bien watché à la boxe?
Je pense que quelqu'un qui veut prendre quelque chose est capable de prendre quelque chose puis de le cacher. Moi, personnellement, je n'ai jamais rien pris. Ça, puis je jure, ça, c'est confirmé, puis jamais repris quoi que ce soit, tu sais, pour me battre. Je sais qu'il y en a qui ont déjà pris des trucs, puis je sais qu'il y en a qui prennent des affaires. Tu sais, là, à partir de ce moment-là, ça leur appartient, mais ça, en même temps, je pense qu'aussi, il y a un travail de la commission qui est à faire, tu sais, pour protéger les boxeurs. Tu sais, moi, j'ai quand même mangé des coups. Tu sais, comme Lucas Brown, il a testé deux fois, que je parlais tantôt, il a testé deux fois positif pour des substances. Tu sais, puis moi, je me suis battu contre lui. Tu sais, on sait pas, était-tu dopé à ce moment-là? Tu sais, ça fait que... Ça reste que... Même si le gars, il teste positif après, mais crif, j'ai quand même mangé les coups de ce gars-là qui était sa dope, là. Tu sais, ça fait que... Tu sais, c'est tout ça un peu. Je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire, une conscientisation. Mais tu sais, encore là, il y a tout le temps du monde qui vont vouloir tourner les coins ronds pareil, puis qui vont ils vont dire « Ah, ben là, pas si c'est ça que ça prend pour devenir champion du monde, je vais le faire. » Tu sais, c'est comme des fois, j'entends des gars dire « Ah, ben, tu sais, au début, c'est normal, là, commence naturel, puis même que t'atteignes un certain niveau, mais là, tu commenceras à prendre, tu sais, du... Voyons donc.
Ah, oh, il disait ça?
Ben, pas à moi, non, mais j'entends ça des fois. Même encore aujourd'hui, tu sais, je le vois. À cette heure avec les réseaux sociaux, là, tu sais, des fois, tu vois des petits clips, là, des affaires. Fait que, tu sais, je me dis, tu sais, dans le fond, le monde, c'est comme s'il banalise ça.
Mm-hmm.
Puis, ben, surtout pour le milieu de la boxe, tu sais, c'est comme, puis de combat, tu sais, c'est...
Mais toi, tu mets ta vie en jeu.
Tu mets ta vie en jeu direct.
Mm-hmm.
Direct, fait que, tu sais, je pense que... Comme moi, je suis totalement contre ça. Puis je pense que t'es capable d'atteindre tes objectifs sans avoir à prendre de ça. Peut-être, oui, ça se peut que ça soit un peu plus long avant que tu cotes ou quelque chose, mais tu sais, à force de travailler, tu vas y arriver quand même. Hein.
Puis ça, c'est-tu de quoi, mettons, qui sait, mettons, genre d'investir, genre que...
Ouais.
Tous les boxeurs sont pas mal au courant, puis ils en parlent juste pas.
Non, ou... moi, j'ai jamais été vraiment au courant comme tel. Okay. Je pense que...
Il y a pas de secret des dieux.
Non. Je pense qu'en nous aussi, il y a des gars peut-être qui arrivent à un certain niveau, qui ont des gars, des préparateurs du monde, qui connaissent la game, qui sont capables de mieux diriger là-dedans. Moi, j'ai jamais eu affaire à ça. Là. J'étais pas assez à ça. Je suis jamais monté à ce niveau-là.
OK.
Ouais. Puis même, il y en a pareil qui vont prendre de quoi peut-être. Mais ça a de la cochonnerie, mais tu sais, je sais pas. Tu sais, comme le gars que je parle, Braidwood, pis encore là, je veux pas faire de fausses accusations, mais tu sais, il a quand même été banni de la CFL pour ça.
Ah ouais.
Pour prise de stéroïdes pis de substances.
Ça, c'est la Ligue de football canadien.
Exactement. Puis si tu regardes dans quel état il était quand il s'est battu contre moi, ben tu sais, je veux dire, 1 plus 1, ça gagne.
C'est ça, ben ouais. Ouais.
Exact.
Fait que là, ça te donne un goût amer, j'imagine.
Un goût très amer. Très
ben
amer.
Ouais. Fait que là, ben ça t'aide pas avec ta consommation. Pas
en tout.
Puis là, c'est ça, tu sais, si on rentre là-dedans, tu sais, c'est. Maintenant, tu sais, on dit consommation, c'est quoi, là? C'est quoi? C'est alcool?
Alcool que moi, l'alcool, j'étais pas alcoolique, en fait. Mais moi, j'étais plus cocaïnomane. Moi, c'est vraiment la cocaïne qui était un gros enjeu puis un gros problème. Qui est devenu un gros problème, en fait.
Ah, puis ça coûte cher, ça.
Énormément.
Ouais.
Ouais.
Puis c'est comme... Quand que t'as commencé... tu sais, comment ça a commencé, tout ça, tu sais? Parce que tu disais que ça a commencé pas mal avant, mais c'était plus gérable.
Ouais, c'est gérable. Mais tu sais, c'est plus... tu rencontres un gars, tu sais, d'un bar, tu sais, je connaissais beaucoup de monde à Québec ou quelque chose, tu sais, un gars... Ah, tu veux, puis la première fois que j'avais essayé ça... C'est un chum, dans le fond, qui dit, garde, essaye ça, tu vois, tu vas juste parler plus, tu vas te sentir bien. Fait que, tu sais, moi, j'ai dit, OK, tu sais, un peu naïvement, mais c'était bien cool, mais tu sais, c'était pas plus que ça. Après ça, je recroise d'autres gars, les autres, ils en faisaient. Puis j'étais, à la limite, je pourrais dire, j'étais influençable, tu sais, mais je m'étais jamais dit, je ferais jamais de ça. Fait que, tu sais, on dirait que j'avais quand même laissé une porte ouverte un peu de dire, bon, je pourrais l'essayer. Mais moi, je m'imaginais que j'allais tout le temps garder le contrôle, tu sais.
Ouais.
C'est comme, moi, j'ai du fun à soi, mais la prochaine fois, j'ai plus besoin de ça, j'en referai pas. Mais, tu sais, puis on entend ça, tu sais, au secondaire, là, tu sais, puis il y a du monde qui vient te parler, puis tout ça. Ouais. Pis, mais on dirait qu'à un moment donné, quand t'es confronté à ça quand même, puis que t'as du monde que t'apprécies, que tu trouves cool, qui en font, tu dis, ben, OK, je vais en faire.
Ben ouais, moi, man, j'avais tellement aimé le film de Tony Montana.
Ouais,
tu sais, moi, je disais ça parce qu'à l'époque, j'avais ma blonde, tu sais. Puis elle voulait pas que je fasse de drogue. Fait que je disais, moi, pis toi, quand on va se laisser, m'a faire plein de poudre.
Ah ouais,
c'est vrai. Ah ouais, genre sur une. M'a faire comme Tony Montana avec sa montagne de poudre, là, tu sais.
Ah, c'est ça.
Puis c'est exactement ça que j'ai fait. On s'est laissé. Ah ouais. Mais tu sais, comme tu dis, ouais, moi non plus, je voyais pas ça d'un mauvais œil parce que ceux qui l'échappaient là-dessus, j'étais comme, yo, je serais jamais ça, là.
Non,
mais tu sais, sans me dire que Chris, eux autres aussi, il y a eu. Une première, ça a été par étapes.
Ben exact, parce que tu commences pas en faisant genre un set, là. Tu comprends, c'est comme une demi, ou quelque chose, sans dire des quantités, mais tu sais. Puis, c'est ça, moi, ça a commencé très graduellement, une soirée par-ci, par-là, puis tu sais, je trouvais ça drôle, après ça, sort. Puis là, à un moment donné, un peu plus récurrent. Mais tu sais, moi, je n'achetais pas au départ, tu sais, je n'achetais pas ça, je me disais... Non, j'achèterai jamais ça. Puis c'est quand je suis revenu en 2015 d'Angleterre, je me rappelle, j'ai acheté pour 300$ la première fois. Puis je dis, let's go, man. T'sais, genre, j'étais comme down. Je me sentais pas bien. Mais en fait, c'est la commotion cérébrale aussi. Je faisais une commotion cérébrale quand je suis revenu d'Angleterre. Puis je me sentais pas. Je me sentais tout le temps fatigué, down. Puis c'est que là, j'ai dit, garde. En plus, pour fuir ça un peu, puis tu sais, j'étais triste. Hein. Fait que ça me mettait high, puis tu sais, je me sentais bien, puis tu sais, je m'inventais une vie en même temps. Tu sais, je me disais, ah ouais, je vais revenir à la boxe, ah ouais, je vais être solide. Fait que quand je prenais ça, c'était comme, là, il n'avait plus de problème. Fait que ça a été comme ça, puis j'associais beaucoup ça à, il n'y a plus de problème, tu sais, ou que je me sens bien. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé graduellement. Puis je te dirais que là, à la fin, là, c'était à tous les jours, tu sais, mais pas quand je travaillais ou pas, tu sais. Il y a des périodes dans la journée où ce que j'en faisais pas, mais tu sais, souvent, c'était, je m'organisais, tout était uniquement focusé pour ça.
Ah, pour ta consommation.
Ma consommation, ouais.
OK. Puis tu consommais pas d'autres choses, tu sais.
Ben,
pas,
je consommais de l'alcool aussi, tu sais, comme
mais
pour,
genre, t'es pas tombé dans le crack ou des
affaires. Non, j'ai pas été dans le crack. Moi, c'est vraiment cocaïne, alcool, les speed aussi. quand même. Je peux dire aussi, méthamphétamine.
Moi, c'est ça qui est drôle, ironique, dans parce que moi, c'est à cause des speeds que j'ai arrêté la poudre. Okay. Parce que moi, c'était un peu comme tu disais, au début, juste pour le fun, tout ça. Mais d'un fois, tu sais, ils coupaient ça avec de la speed.
Ouais, aussi.
Ah, puis moi, j'haïssais ça, là, même. Hey, je capotais, j'avais l'impression. Hey, j'étais comme, je vais-tu être demain ma vie? Je détestais ça. J'étais incapable de dormir.
Ouais, non, tu dors pas. Non. Puis, tu sais, moi, en même temps, à un moment donné, en tout cas, c'était rendu grave. Là. C'était, tu sais, quand je dis chanceux d'être en vie, parce que, tu sais, puis encore là, probablement, peut-être qu'il y en a qui écoutent le podcast, puis qui se disent, ah, moi, j'ai fait plus, mais on s'en fout. Dans le sens que moi, je prenais 6 speed. Puis je me grabais ça.
Ah ouais.
Puis après,
d'une shot?
D'une shot. Ben non. À la fin, je te jure, à la fin, c'était ça.
Puis c'était-tu parce que c'était des speeds de marde ou...
Probablement. Mais je veux dire, en même temps, je me poignais ça. Je me posais même pas de questions. Tu sais, c'est comme... Je voulais me sentir grounded. Puis genre, je finissais de travailler. J'arrivais, j'allais voir le gars. Tu sais, je prenais ça au paf, 6 d'une claque. Puis après ça, genre, je prenais de la poudre puis de la boisson toute la soirée. Jusqu'à temps que... Mettons, t'sais, à 4-5 heures, il fallait que je dorme, tu sais, c'est que là, j'arrêtais ça. Ou, tu sais, des fois, je me prenais des antidouleurs que j'avais, parce qu'en même temps, avec tout ça, tu sais, j'avais fait des entorses cervicales, j'avais eu des problèmes aussi au niveau musculaire, plein de trucs, fait que j'avais des antidouleurs ou des trucs que je savais qu'ils allaient pas me faire dormir. Puis même, j'avais été voir mon médecin pour dire, je pense que je fais une dépression, puis il m'avait prescrit des antidépresseurs, puis ça me faisait dormir aussi. Fait que, tu sais, je prenais ça, je mélangeais n'importe quoi.
Ben, c'était tout un cocktail,
ouais,
là,
pis ça. Des fois, je fumais du pot en plus pour
ouais.
Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis que je suis très chanceux.
Ouais, le pot, c'est celle le moins pire.
Ouais, c'est le moins pire. Mais, tu sais, je mélangeais tout, là, tu sais, puis il n'y avait plus de... Tu sais, j'étais rendu... Tu sais, que il n'y a plus rien qui me dérangeait. Puis, justement, tu sais, je prenais plus soin de moi du tout, là. Tu sais, il y avait... Tu sais, il n'y avait plus de limite, là, de où est-ce que je pouvais aller.
Mais ça, j'imagine, cette consommation-là, tu disais que tu faisais pas ça quand tu travaillais, par exemple.
Non.
C'est ça. Tu travaillais-tu encore à...
Moi, je travaillais pour au centre jeunesse.
Ah, ouais.
Mais tu sais, c'est comme le soir, tu sais, c'est comme qu'est-ce que tu fais chez vous, tu sais.
Ouais.
Fait que tu sais, je parlais pas de ces affaires-là.
Puis personne s'en rendait compte?
Mais je pense qu'à un moment donné, il y a des gens qui commençaient à s'en rendre compte. Là. Je m'endormais à job ou, tu sais, j'avais l'air fatigué, j'étais beige. Tu sais, ça fait... C'est sûr que, tu sais, il y a des moments, tu sais, où c'était pas chic, là. Tu sais, des fois, j'essayais de
le cacher.
Mais j'ai tout le temps essayé de le cacher, là. Puis ça, je l'avais déjà dit, j'allais au bronzage, tu sais, pour cacher ça un peu, pour pas avoir l'air trop blême. Puis, tu sais, j'essayais... Ben, souvent, je rentrais pas. Tu sais, en fait, c'est que quand je pouvais rentrer travailler une journée, je me sentais bien ou quelque chose, ou fatigué un peu, mais c'est pas grave. Puis le lendemain, je callais malade ou je commençais à caller malade très souvent. OK, je vais me prendre 2 semaines de maladie, tu sais. Mais en fait, c'est que je prenais jamais soin de moi. Tu sais, dans toutes ces périodes-là, même si j'étais en maladie, là, à un moment donné, mon médecin il me disait, ben là, moi, je suis pas vraiment pour... Quand tu fais une dépression, je suis pas vraiment pour que tu restes chez vous à rien faire. Fait que là, je pense qu'après 2 semaines, ce serait bon que tu retournes travailler. Fait que tu sais, ça a été toute qu'une histoire, là, puis tu sais, d'essayer de jouer avec tout ça, puis ma boss, puis là, je me suis fait suspendre. Je me suis fait suspendre 2-3 fois, moi.
Puis c'était pourquoi, ça?
Parce que, justement, j'arrivais en retard, ou je rentrais pas, je donnais pas de nouvelles, je rentrais juste pas. Tu sais, c'est comme, c'est-tu de quoi de plus insultant que ça dans la vie? Tu sais, que quelqu'un qui, tu lui donnes un rendez-vous, puis il se pointe pas, mais là, en plus, c'est ma job.
Ouais.
Fait que, tu sais, eux autres, ça les mettait dans la merde, là.
Puis ça, tu disais pas fiable.
Je suis zéro fiable. Fait que, tu sais, là, je me suis fait suspendre, puis là, j'allais tout le temps jusqu'à la limite, tu sais. Puis à un moment donné, il a fallu que c'est ça, que je me replace. Puis une de mes boss que j'ai toujours grandement apprécié, puis qu'elle a gardé le côté humain aussi, elle a dit, tu sais, je pense que tu fais le pas, là. Elle a dit, tu vas voir un médecin, mais tu sais, encore là, le médecin, je le manipulais un peu, mais tout ça a fait en sorte que là, j'ai dit, criff, faut que je change ça, parce que sinon, je passerai pas au travers.
Puis là, juste pour donner, mettons, t'as une idée, là, si ça te dérange pas, là, tu peux-tu donner un exemple, ça ressemble à quoi, comme, mettons, t'as une grosse soirée de consommation?
Ouais. Une grosse soirée, là, ça, Ça peut être jusqu'à 3... Ben, tu veux dire des quantités?
Ouais.
Ben, 3 points, ça va être plus que ça. Ça peut monter à 4 grammes, mm-hmm. 4-5 grammes. Des fois, peut-être ben même un 7, là, je sais pas. Là, dépendamment mm-hmm. de la qualité. Là. Puis, tu sais, j'étais ça parano, puis, tu sais, ça allait pas bien. Là.
Puis, tu faisais quoi durant ce moment de buzz-là?
Ben, des fois, j'écoutais la télé, ou des fois, je venais... Ouais, j'étais tout seul, des fois, tu sais, puis ça allait pas, tu sais, je peux être... C'est crispé, là, tu sais, c'est pas nice, là. Vraiment pas nice, là.
OK.
Ouais.
Tu t'es pas rendu à voler du monde ou à...
Non, tu sais, puis j'avais quand même un côté de moi qui est tout le temps resté là, là, tu sais, mm-hmm. puis je pense qu'il y a des gens qui vont encore plus loin, mais tu sais, moi, c'est ma limite, je l'ai franchi, puis aujourd'hui, tu sais, regarde, j'en parle, tu sais, mais c'est comme c'est derrière moi, mais en même temps, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, il y a des trucs que probablement, tu sais, le manque de fiabilité, pour moi, c'était déjà quand même quelque chose de gros.
Ouais.
Mais en même temps, puis les problèmes financiers, mais qu'est-ce qui m'a aussi fait mal, c'est de voir, tu sais, ma mère, tu sais, qui m'a, à un moment donné, s'est pointée chez nous, tu sais, qui était triste, qui pleurait, tu sais, puis, tu sais, il y a ouais, eu plein, plein d'éléments, tu sais, qu'à un moment donné, aussi ce côté fierté, puis conscience, tu sais, il y en a qui vont... qui vont avoir ces problèmes-là puis qui décideront jamais de s'en sortir. Puis moi, j'ai comme juste décidé que là, c'était assez puis que fallait que je me sorte de tout ça puis que je demande de l'aide aussi puis que je fasse des moves, tu sais,
mm-hmm.
pour me sortir de cette merde-là.
Puis ta mère, c'est ça, elle s'est-tu rendu compte qu'il y avait de quoi qu'elle n'allait
ouais,
pas ouais, ben pour oui. qu'elle se pointe chez vous?
Ouais, ma mère, elle savait qu'il y avait... Elle a pensé que je faisais une dépression, that's it. Mais elle n'a jamais pensé que tu sais c'était la consommation non plus, tu sais, mais à un moment donné, elle a su là, puis c'est ça.
Que... Ben ouais, c'est ça, parce que tu avais dit aussi encore une fois, je sais pas si dans ton livre ou dans un article que y avait beaucoup de monde qui savait vraiment pas qu'est-ce qui se passait mais avec
non,
toi.
Personne. Hey, je me suis déjà même fait quand j'ai avoué que tu sais j'ai parlé de ça, tu sais que j'avais eu des problèmes de consommation, il y a un gars qui m'avait écrit. Je suis sûr que c'est même pas vrai que t'as des troubles de consommation. Tu t'écris ça pour de,
ah, ouais.
de l'attention. J'étais choqué. Ah, ouais. c'est... Non, c'est vraiment.
J'avais bien caché.
Ben, j'avais bien caché, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, c'est clair qu'il y a plein de monde qui pouvait pas se douter de ça. Il y en a qui le savent. C'est sûr qu'il y en a qui le savent. Criff. Tu sais, je consommais aussi ouais. des fois avec du monde d'imparté pis tout.
Ton pocheux.
Ouais, aussi, ouais, c'est ça, exactement. Le pocheux aussi, c'est ça, c'est clair.
Ouais.
Mais, tu sais, c'est ça. Puis, il y a d'autres mondes qu'eux autres. Il n'y avait pas idée de ça, ou tu sais, du monde qui consomme pas. Tu sais, des fois, ils verront pas nécessairement mm-hmm. que des personnes ont des problèmes à cause de ça.
Ben
tu sais, puis tu vas pas dire jamais, ah, c'est parce que j'ai sniffé toute la nuit hier, c'est pour ça que je suis de même aujourd'hui, pas en tout.
Les autres qui cachent.
Je dis, ah, j'ai une allergie, des allergies, j'ai la grippe, ah, je sais pas ce que j'ai ces temps-ci, je me sens pas bien, tu sais, plein d'affaires, j'en fais beaucoup, tu sais, ça fait que tu vas tout le temps trouver des raisons ou des excuses, tu sais, tout le temps. Puis aujourd'hui, là, je me dis, crif, avec tout ce que j'ai pu faire comme niaiserie de même, puis de me défoncer, il y en a qui disent, ah, t'es intense parce que maintenant je cours beaucoup, je prends soin de moi, mais t'sais, encore là, il n'y a pas de demi-mesure. Là, mais je me dis, crif, là, c'est bénéfique pour ma santé, c'est bénéfique pour moi, puis dans toutes les autres sphères de ma vie. Puis crif, c'est sûr que ça se compare pas à comment est-ce que j'étais avant. Là, c'est dans le sens où si j'étais capable de pas dormir une nuit complète puis à faire le fou, ça veut dire aujourd'hui, je suis capable de me lever à 5 heures puis aller courir si je me suis couché à 9 heures la veille.
Mm-hmm. Tu disais aussi qu'en 2018, tu as même pensé au suicide.
Ouais.
Ça t'a amené jusqu'à là.
Oui, exactement. Ben oui. Parce que des pensées noires, honnêtement, là, c'était quotidiennement, tout le temps. Mais aussi, même quand je commençais à consommer, tu sais... Puis là, je me dis, calé, que j'étais écœuré. J'étais juste écœuré, tu sais, de consommer, puis de dépenser mon cash là-dedans. Puis, tu sais, je veux dire, sans, en tout cas, même le petit pusher, hein, j'étais tanné d'être obligé de l'harceler, tu sais, d'aller le voir. Puis, tu sais, que, dans le fond, que lui aussi, il s'en crissait de moi, là, tu sais, il s'en fichait bien raide, là, c'est hors sac de moi, mais, tu sais, il s'en fichait, tu sais, dans le. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est mon argent, tu sais, ça fait que. Puis, c'est ça, c'est fait que, tu sais, puis à plein de niveaux, là, je dis, garde, là, c'est pas une vie, ça, hein, c'est pas une vie, puis je vaux plus que ça. Là.
Est-ce que t'étais, tu faisais encore de la boxe, ou c'était après ton combat, avant ton
combat? Ça, c'est en 2019. en fait.
OK.
C'est que là, j'ai vraiment pris des mesures, tu sais, pour me sortir de tout ça. Là. C'est okay. En 2019, tu sais, que là, c'est 2018. En fait, c'est 2018 que je savais qu'il fallait que j'arrête ça, tu sais, mm-hmm. que je commence à faire des moves.
Parce que là, ça n'allait plus, là.
Non, c'est ça.
Tu te rends à penser au suicide ah ouais, comme solution. Ouais,
solidement. Tu sais, j'y pensais parce que... Puis, tu sais, je souhaitais quasiment... Ça m'est arrivé très souvent... De me coucher le soir, tu sais, ben de me coucher puis s'endormir, là, mais tu sais, d'être tellement, de dire, mon cœur va me lâcher, c'est sûr, là.
Mm-hmm.
Tu sais, puis de me dire, ben, regarde, si j'ai à mourir, je mourrai. Tu sais, mm-hmm. mais tu sais, tellement pu, tu sais, avoir de désir que, tu sais, ça puisse m'amener jusque-là, là.
Ouais.
Fait que, tu sais, c'est quand même.
Parce
c'est
que, stock. En 2018, t'as fait ton combat d'adieu.
Ouais,
c'est bien 2018. Terminé. Tu sais, t'as remporté.
Au centre Vidéotron.
Au centre Vidéotron. Ça ouais. a très bien été pour toi.
Ouais, mais contre encore là un Mexicain que, tu sais. Tu sais, j'ai rien contre ça, là, mais tu sais, j'ai pas eu d'adversité. Là. J'avais pas d'adversité. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme, tu finis ça, après, je fais un discours pour dire parce que mon chum David était décédé. En mars, dans le fond, un mois avant, et que j'ai dit, regarde, je pensais à lui, tout ça, je faisais un discours dans le ring. Puis ensuite, le soir même, j'avais un gars qui était là, qui m'avait amené de quoi, tu sais, puis je partais. Puis tu sais, j'étais supposé faire un party, je me rappellerai toujours, un party en sa grande allée avec au Jack Saloon, puis. Je me suis même pas... J'ai rentré, je suis ressorti pour retourner en re-signifant encore, puis j'ai jamais été capable de retourner. Je suis comme devenu jammé. Mm. Et que là, je suis comme parti. Puis je me suis loué une chambre d'hôtel, genre, tout seul. Tu sais, t'imagines-tu?
Ah ouais. Genre, trop juste sa parano.
Trop sa parano, puis vouloir juste être tout seul, puis...
Sniffer
tout seul. Pas personne. Ouais. Imagine-toi, c'est pathétique en tabarnouche, pareil.
Ben,
quand
ça monte où t'étais rendu dans exactement ta consommation.
Tu sais, j'avais plus de fun. Je n'avais plus de fun parce qu'on avait acheté des bouteilles et tout, puis je m'en fichais complètement. Moi, c'était... Je voulais même pas voir le monde. Je me suis juste en allé.
Puis ça, toi, c'est à ce moment-là, parce que j'imagine que t'es dans le fond, là, tu sais,
ouais,
c'est quoi tu cherchais à combler, là? C'était...
Hey,
la perte de ton chum.
Il y avait plusieurs vides. Le deuil aussi d'annoncer ma retraite. Hey, tu viens d'annoncer. Là, j'avais annoncé là, que là, c'est le dernier combat que j'allais faire. Là. Tout là, ça, là, c'était fini. J'étais plus un boxeur à partir de cette journée-là. Mm. C'était fini. J'allais pas remonter dans un ring. J'allais pas revivre ça. Puis que tout le monde me connaisse pour. Ah, Eric Martel, ben oui, ah ouais, le boxeur. Mm-hmm. Mais là, que c'était comme... Dans ma tête, c'était fini.
Ouais, c'est ça, t'avais plus la... T'as eu de la misère à retrouver ta reconnaissance à l'extérieur de la reine. Là,
exactement t'sais. Ça. C'est comme si moi, je devenais un no-name.
Mm.
Puis alors que, tu sais, aujourd'hui,
mais
je
non,
réalise
c'est,
bien
c'est
que...
Un autre, c'est un autre étape.
C'est d'autres choses.
Ouais.
Tu sais, je réalise bien que ça avait pas rapport puis ça avait pas de sens.
Mais c'est pas de même que tu le voyais.
Exactement. Puis tu sais, aujourd'hui... Tu sais, je regarde ça, puis je me dis, tu sais, c'est comme, tu sais, est-ce que, tu sais, mais je suis content, ben pas content, mais je veux dire, il fallait que je vive ça quand même
mm-hmm.
pour, tu sais, être qui je suis aujourd'hui.
Fait que là, ça t'a amené jusqu'à penser à... Mais t'as pas fait de tentative, là, de
ben suicide. Ben en fait, c'est qu'une journée, j'étais défoncé, mon gars, puis le soleil était levé, puis là, je me disais, crème... j'étais pas capable de dormir, j'étais sa parano, j'étais pas, tu sais, comme, en tout cas, j'étais plus capable d'être là, tu sais, d'être dans son, mettons, dans mon salon, puis de pas savoir quoi faire.
Mm-hmm.
Fait que là, j'ai pris mon char, puis je me suis rendu, tu sais, je me disais, regarde, au pire, je ferais comme semblant de faire un accident de char. Puis je me suis rendu comme ça jusqu'à Trois-Rivières. Puis rendu à Trois-Rivières, j'avais plus d'essence, puis j'ai mis du gaz, puis un gars qui m'a reconnu. Puis il me dit, hey, c'est vrai que tu viens-tu t'entraîner avec Simon? C'est que je... Non. Puis ça m'a comme ramené sa planète Terre. Puis j'ai dit, OK, ça n'a pas de sens, même, ce que je fais là.
Tabarnak.
Ouais.
Fait que toi, t'avais déjà ton plan de faire.
Ouais, ouais,
pis...
ouais. Fait que tu sais, puis une journée, justement, j'étais supposé de travailler, je pense, en tout cas, cette journée-là. J'avais pas collé encore une autre affaire. Tu sais, c'est. Dans ma tête, je voyais ça comme juste des problèmes, j'ai des problèmes. De l'argent, le huissier était venu deux fois, moi, chez nous, des semaines avant, pour me dire, regarde, là, en ce moment, tu te fais poursuivre par la banque, tout ça, puis, tu sais, je faisais des moves de cave, là, tu sais, j'étais pas fiable, même avec mes chums pis tout le monde, tu sais, ça avait pas de sens. J'étais supposé déménager un de mes chums je pense que c'était le 1er juillet. Pis y a personne qui m'a rappelé, man, pour me dire quand ça t'es pas là. Tu sais, fait que juste ça.
Assumé, fait,
tout le monde, Eric est pas là, on s'en fout, c'est normal qu'il soit pas là. Ouais. Fait que plein niveau, de petites affaires dans moi que j'ai dit, ok, ça a pas de bon sens, tu sais. Mais tu sais, à ce moment-là, je réalisais pas ça, mais j'étais juste down. Je me disais, j'étais un trou de cul. Hein. Tu sais, je me dis, c'est un peu ça que je me disais. Là.
Fait que t'étais tout le temps en train de parler négativement de toi-même. Tu te voyais très souvent.
Ben oui, c'est clair. Parce que tu sais, c'est comme mon estime était au plus bas. Tu sais, puis ma carrière de boxe, ça avait pas été comme je pensais que ça allait être. Je me disais, ok, pourquoi, tu sais, dans le monde, dans le fond, même au niveau de la boxe, si je pousse ça encore plus loin, tu sais, dans le fond, les promoteurs s'en fichaient de moi, tu sais, c'est comme, ils voulaient pas ils m'ont pas signé. Fait que, tu sais, j'ai tout mis ça au pire, je mettais tout au pire, j'avais pas de blonde à ce moment-là. Je me voyais comme un tout croche. Puis, tu sais, je me tenais pas tout le temps non plus avec du monde recommandable. Fait que, tu sais, puis je commençais à penser à faire des mauvais coups puis des bad moves pour faire plus d'argent.
Pour essayer de te sortir de ça.
Pour me sortir de ça. Fait que tout ça, le melting pot, tu sais, de toutes ces affaires-là, faisant en sorte que, tu sais, je m'aimais plus. Hein, tu sais, je m'aimais juste plus. Hein.
Puis comment t'as décidé de t'en sortir? Ça a été quoi, ça, le day one, on va dire, là?
Le Day One, ça a été vraiment genre après justement encore une autre soirée de défonce là, où ce que là j'ai comme dit que là c'est fini là. Tu sais, c'est comme je me suis dit là, il faut que je trouve des outils. Tu sais, il faut que j'arrête. Puis tu sais, c'est comme moi je me suis fixé le 1er juillet 2019. C'est là que j'ai dit ok, je me prends en main puis j'arrête. Mm-hmm. Ça n'a pas été facile, là, je te mentirais pas. Là. Puis un de mes chums m'a amené faire du meeting aussi. Moi, je voulais pas faire de thérapie. Il m'a dit, tu sais, moi, je fais du meeting dans Charlebourg, à Québec, tout ça, les NA. Puis, c'est ça qui m'aide le plus. Puis, ça m'aide. Puis, lui, a fait des thérapies, je pense. Fait que, il m'a amené là. Puis, j'ai dit, au début, c'était juste pour me donner bonne conscience. Là, je vais être bien honnête, là. OK, mais j'ai pas consommé. Puis, il disait 24 heures, tu sais. Puis, je prenais des brides. Tu sais, je comprenais pas tout le programme, tu sais. C'est juste que je disais, OK, il me disait 24 heures à la fois, OK, juste pour aujourd'hui. Ça fait qu'aujourd'hui, j'essaie de pas consommer, parfait. Ça fait que je consommais pas cette journée-là. Là, le lendemain, OK, essaie de pas consommer, OK, une semaine. Puis tu sais, ça a été comme, tu sais, t'accumules.
Tu le voyais une journée à la fois.
Ah, là, parce que regarde, au début, t'as des obsessions, là. Tu sais, on se mentira pas, là, tu sais.
Mais surtout si t'es dans l'état que t'es, là.
Ah, puis des obsessions de reconsommer ou aussi une difficulté. Des émotions, plein de choses. Et moi, en plus, on n'a pas parlé, mais tu sais, mon père aussi qui était absent. Moi, mon père vient de la Côte d'Ivoire. Okay. J'étais en Afrique. Moi, j'étais élevé tout seul avec ma mère. Fait que tout ça, faisant, tu sais, j'ai repensé à plein d'affaires. Fait qu'en tout cas, tu sais, puis je fuyais beaucoup de trucs que dans le fond, que j'ai comme réalisé après coup que tout ça, puis aussi en écrivant le livre, tu sais, ça m'a fait prendre conscience là, beaucoup, là, tu sais, puis que j'avais plein de blessures, plein de trucs que j'avais jamais réglés, puis qui faisaient en sorte que c'était pour ça que, dans le fond, tu sais, je fuyais mes émotions, puis que je me sentais peut-être pas... je me sentais pas bien, tu sais, puis là-bas, en tout cas, là-bas, c'est une affaire, mais tu sais, il y avait beaucoup d'autres choses aussi en arrière de ça. Fait que, tu sais, puis mon travail se poursuit encore aujourd'hui, tu sais, dans le sens où c'est pas parce que là, je te parle de ça que...
C'est réglé.
C'est réglé. Tu sais, je travaille sur moi, puis je deviens une meilleure personne. Puis même, je te dirais, tu sais, ma blonde, elle me l'a déjà dit aussi, tu sais, si elle regarde de quand ça va faire 3 ans qu'on est ensemble, tu sais, l'évolution que j'ai depuis que je suis avec elle aussi, tu sais, ça se compare pas. Mm-hmm. Tu sais, quand j'ai commencé à sortir avec, puis la personne que je suis aujourd'hui, tu sais, je suis à un autre niveau complètement. Ah ouais. Tu sais, on a bâti quelque chose, puis on bâtit quelque chose
c'est
ensemble.
C'est valorisant.
Ben oui, c'est valorisant.
Tu vois t'accomplir, puis
exactement
tout ça.
Ça. Ben
c'est encourageant à continuer dans cette voie-là.
Ben oui, ben oui.
Tu sais, tu checkes toutes les bonnes affaires qui m'arrivent depuis que je suis là, dans cette voie-là.
Direct. Puis c'est pour ça que je dis que la vie est un combat, souvent, tu sais, puis je fais des belles phrases, mais ça reste que c'est vrai quand même. Tu sais, que la vie est un combat. Mon combat aujourd'hui, tu sais, je m'entraîne plus maintenant pour être champion de boxe, tu sais, je m'entraîne pour ma vie, tu sais, pour être un bon père éventuellement, pour être un bon chum, pour être un bon ami aussi, un gars fiable. Tu sais, avant que je vienne faire le podcast, si à matin, moi, à 5h15, j'étais debout, j'étais avec trois de mes boys, on est allé courir à 6h45, tu sais, on courait, tu sais, puis on faisait des sprints, des intervalles, tu sais, puis il n'y a pas personne qui s'est dit « Ah, ben c'est normal, si j'avais pas été là, il n'y aurait personne qui aurait dit « Ah, c'est normal qu'Eric soit pas là à matin, tu sais, oublie ça, tu sais, tout le monde sait que je vais être là, puis que je suis un gars fiable. » Puis c'est ça, moi, aujourd'hui, ma fierté, c'est de ce que je te dis, puis ce que je fais. Mais c'est ça.
Ouais. Les bottines suivent les babines.
Exactement ça. Contrairement à avant, où j'étais un faux-né, dans le fond.
Ouais. Ben, ouais.
Ben non, mais façon de parler, je sais que c'est rough, puis j'étais un peu rough envers un moment en disant ça, mais tu sais, j'étais quand même pas fiable. Puis pour du monde, tu sais, aujourd'hui...
Ben, t'étais dans des problèmes de consommation, ouais, en plus de dépression.
Ça, c'est sûr, mais c'est facile de dire ça, tu sais. Tu sais, aujourd'hui, pour moi, c'est comme facile. Mais quand t'es dedans, le monde, il le voit pas comme ça. Le monde, ils vont pas te dire « Ah, mais c'est normal, Eric a seulement des problèmes de consommation et en plus, il fait une dépression. » Il va pas personne qui va dire ça. Le monde, ils vont dire « C'est un tout croche, c'est un pas fiable, mais on s'en fout de lui aussi ou ça. » Fait que, tu sais, après, quand tu sors ton histoire, « Ah, crime, ah, c'est inspirant, c'est beau. » Puis c'est vrai, mais dans un sens, mais la seule personne qui va vraiment pouvoir te sortir de tout ça, mais c'est toi. C'est moi. Tu sais, parce que si moi, j'avais pas fait le move de dire, regarde, j'ai des problèmes, de sortir même publiquement, quasiment, hey, j'ai des problèmes de consommation, hey, je fais une dépression, j'ai ci, j'ai ça, ben, sinon, ça serait resté enfoui, personne l'aurait su, peut-être bien même que je me serais enlevé à la vie, puis ah, c'est triste, hein, Eric s'enlevait à la vie, oui, on sait pas pourquoi. Mais tu sais, regarde, aujourd'hui, ben, tout ça peut permettre peut-être à d'autres personnes de pouvoir s'en sortir. Puis, de un mot que j'ai appris dans les dernières années, c'est se responsabiliser. Hein.
Ouais, ben c'est ça, je m'en allais dire, tu sais, de prendre tes responsabilités puis tes torts pour justement pouvoir les corriger, tu sais, de t'optimiser là-dedans.
C'est ça.
Ça t'aurait peut-être pas sorti.
Parce que quand on se connaît, j'apprends à me connaître, puis ça, il y a le côté maturité aussi là, qui rentre. Là. Mais je vais tout le temps rester un éternel adolescent, pareil, peut-être en dedans de moi, mais ça reste que la maturité, puis de comprendre vraiment qui qu'on est puis qu'est-ce qu'on fait, ça change, tu sais, beaucoup.
Tu as dit que tu t'es fait quasiment une mission d'aider ton prochain.
Ouais.
Que ça, puis c'est quoi tu fais? C'est entre autres.
Ben en fait, c'est sûr que moi, je travaille pour la DPJ, ça fait j'essaie d'aider le plus possible les jeunes quand j'y vois, quand je vois des kids ou quoi. Mais tu sais, sans devenir non plus Mère Teresa, je pourrais pas, je peux pas sauver la planète.
C'est ça, t'es pas Gandhi.
Mais tu sais, puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, puis tout ça, il y a possibilité de partager le message. Moi, dans le fond, mais là, je cours. Tu sais, la course à pied est devenue comme, on dirait, j'ai lu le livre de David Goggins, je sais pas si ça dit quelque chose, en tout cas, qui est un gars qui a fait tout le processus des Navy Seals. Qui lui aussi qui a eu une enfance très, très difficile. Tu sais, je dis lui aussi, moi, j'ai pas une enfance difficile, mais quand même, j'ai eu mon lot de problématiques puis de trucs à surmonter. Puis lui, justement, il s'est servi de tout ça pour rendre ça positif. Il a fait plein d'ultramarathons. Puis dans son livre, il explique tout, puis il est rendu comme il a une force mentale incroyable. Puis c'est devenu, je dirais, ma plus grande inspiration en ce moment. Puis, tu sais, sans vouloir dire que je vais être comme lui, c'est pas ça, mais c'est que la course à pied, j'essaie de justement relever des défis, des nouveaux défis. Je veux faire justement continuer. Je fais à chaque année maintenant le tour de l'île d'Orléans, là, où est-ce que je ramasse de l'argent pour différents organismes. Là. Comme l'an passé, ça a été pour 24 heures Chronosport, qui est un organisme qui vient en aide aux jeunes défavorisés issus des nouveaux arrivants. Qui est issu d'immigration. Fait que j'ai ramassé au-dessus de 5 000 $ pour eux autres avec la course. Après ça, j'avais mon ami Mario Hudon qui est aujourd'hui décédé de la SLA, que dans le fond, que j'ai ramassé aussi de l'argent pour cette cause-là. La première année, par contre, ça a été uniquement pour moi, pour ma deuxième année de sobriété. Donc, à chaque année, autour de juin-juillet, là, j'essaie de courir justement pour ma sobriété de un, puis de deux pour ramasser de l'argent pour un organisme là, que je vais changer. Comme cette année, je vais voir, là, il y a un organisme qui m'a approché pour venir en aide aux jeunes pour avoir des fournitures de scolaires, tout ça.
Ah, cool. Ouais, ouais. Ben ouais,
c'est ça fait bon, que, tu sais, que dans le coin de Limoilou-Bardi, fait qu'à Québec, là, qui est un coin peut-être des fois un petit peu plus défavorisé, fait que ça va être ça. C'est, moi, c'est comme ça que je pense pouvoir aider, puis de passer justement mon message, tu sais, dans différents podcasts ou de, tu sais, justement, de pouvoir inspirer, de dire, regarde, c'est pas parce que t'as eu des problèmes ou que t'as fait une dépression ou quoi que ce soit, des problèmes de santé mentale que tu peux pas t'en sortir. Puis je me cristallise aussi beaucoup là-dedans. Tu sais, moi, ça me permet de rester
grounded dans
ça. Tu sais, de pas vouloir retourner, tu sais, consommer ou retourner faire le cave. Tu sais, puis ça me fait progresser puis avancer. Puis comme je disais tantôt, dans toutes les sphères de ma vie, tu sais, ça, c'est juste un plus.
Ben, c'est vrai que c'est inspirant.
Ouais, merci.
C'est vraiment cool. Ouais, c'est vrai. Ben, il y avait de quoi que je voulais te parler avant qu'on termine.
Ouais.
J'ai trouvé ça, je sais pas pourquoi j'ai trouvé ça drôle, mais ça aussi, c'est cool. Te sauver la vie d'un gars, toi.
Ouais, juste. Ouais, ben oui.
Te sauver la vie d'un gars, t'es en train de s'étouffer.
Exact, ici. Ben oui. Un soir, en plus, il fallait que j'aille au gym. En tout cas, on avait comme un meeting. J'arrête au gym, mais tu sais, dans ce temps-là, je buvais du café, j'ai arrêté le café, mais en tout cas, je voulais arrêter absolument prendre un café avant le meeting, puis j'arrête au Tim Hortons, puis en rentrant, moi, je suis dans le fil, je parle avec un de mes chums au téléphone, puis là, à un moment donné, j'entends un bruit, mon gars, là, une affaire, là, genre, mais pire que ça, là. Puis là, je me reviens, puis le monsieur, genre, il cherche là, son air, puis il cherche à essayer d'accrocher quelqu'un, mais il va voir une petite madame, mais la madame, elle a peur, tu sais, au lieu, elle fige, puis elle a peur du monsieur parce qu'elle sait pas ce qui se passait. Fait que là, moi, je dis, OK.
Elle vient de regarder Walking Dead.
Peut-être.
C'est ça.
Mais tu sais, je me disais, c'est une crise cardiaque, tu sais, mais là, je voyais que non, c'était au niveau de la gorge, puis il y a un monsieur qui s'en va en arrière, il tape dans le dos, je dis, non, monsieur, tu sais, tassez-vous. Puis moi, avec ma job comme agent d'intervention, puis tu sais, j'avais eu des formations, et que je m'en vais tout de suite en arrière de lui, je le pogne, pap, je le fais trois fois, puis ça a sorti. Fait que j'ai comme sauvé la vie, puis c'est drôle, ben c'est pas drôle, bandoute, mais une semaine plus tard, il y avait un autre monsieur qui annonçait ça, il disait ça dans le journal, qui était décédé, étouffé dans un restaurant à Québec, dans la même période, tu sais, puis on n'entend jamais ça, des affaires, hein? Fait que, tu sais, mais c'était pas ce monsieur-là, là, parce que j'ai su que, tu sais, lui, il était encore au Tim Hortons des fois, que le monde m'a dit, puis après, moi, j'ai comme dit, crème, justement, là, ça a été filmé, c'est les caméras, puis tout ça, puis le monde du Tim Hortons m'en ont parlé, puis ça a même passé dans le journal.
Ben c'est oui, devenu ben c'est comme ça, une nouvelle. Ouais. Je l'ai lu, c'est ça.
Exactement, le Journal de Québec en ont parlé, puis tout.
Mais le gars, est-ce qui est, genre, un an auparavant, est-ce il pensait peut-être à s'enlever la vie?
Exactement, mais c'est ça qui est fou, parce que ça l'a tombé exactement dans c'est en septembre, ça, que c'est arrivé, puis ça faisait pas tant longtemps que j'avais annoncé publiquement. Tu sais, en juillet, j'annonçais que j'arrête de consommer. En septembre, je sauve la vie de ce monsieur-là. Puis, tu sais, ça, puis c'est comme, c'est à partir de ce moment-là, pour vrai de vrai, la vie, elle a comme commencé à
prendre un autre tournant.
Tu sais, puis plein d'affaires comme ça qui me sont arrivées, tu sais, de positif. J'ai rencontré ma blonde aussi, ça, c'est une des choses aussi qui a changé grandement ma vie. Tu sais, qu'aujourd'hui, tu sais, de pouvoir avoir un enfant, tu sais, puis d'avoir une maison, tu sais, d'avoir quelque chose de solide, tu sais, puis de, tu sais, je suis parti quand même, en tout cas, de rien, tu sais, ça allait pas bien, puis aujourd'hui, pouf, pour moi, c'est ça, mes plus grands accomplissements, au-delà de la boxe. Oui, c'est bien beau d'avoir été champion, d'avoir gagné une ceinture, puis, tu sais, des combats, puis d'avoir soulevé des fois, mais, tu sais, pour ma vie personnelle, pour moi, là, tu sais, ça reste que de pouvoir, tu sais, avoir un enfant, tu sais, une progéniture, tu sais, un héritage aussi.
La stabilité.
Puis, tu sais, ma mère, tu sais, je parlais que ma mère, tu sais, était triste puis qu'elle pleurait. Tu sais, aujourd'hui, je l'appelle une fois par jour pratiquement, tu sais, ou tout le temps, tu sais, puis je me suis énormément rapproché d'elle. Puis, tu sais, ça reste que c'est la personne avec ma blonde la plus importante là, dans ma vie, là.
Hey mon gars, c'était vraiment cool.
Un gros merci.
Éric Martel, Bao et Lee.
Exact, ben, Bao et Lee.
Les yes, Bao. Ben ouais, team Bao, team Bao et Lee. Yes. Hey man, merci beaucoup. Puis c'est ça, tu sais, je vais te laisser un peu le mot de la fin. Tu sais, je sais ouais. que si le monde veut te suivre, ils peuvent te suivre sur tes réseaux sociaux, Instagram, Facebook.
Exact.
Puis je sais aussi, tu fais des conférences aussi dans
les écoles. Je fais des conférences dans les écoles, différentes écoles, surtout de la ville de Québec, là, je dirais, pour le moment. Là. Je suis venu à Montréal une fois, mais j'essaie de partager un message justement de résilience puis l'importance d'avoir une passion, mais que la vie, justement, tu sais, ça reste que même si tu as vécu ta passion un certain temps, tu sais, il va y avoir d'autres épreuves, il y a toujours des épreuves à surmonter.
Ben, c'est une belle histoire, puis c'est ça, c'est un bel exemple aussi.
Ouais. Puis justement, on sait que nos jours, tu sais, la consommation est omniprésente quand même, puis tu sais, que des fois, on peut banaliser ça. T'sais que ça soit juste occasionnel, mais quand tu as des problèmes, des fois, tu vas te réfugier là-dedans. Ouais. Il y en a plein de monde, plein de mes chums, ils disent « Ah, moi, je prends juste ma petite bière une fois de temps en temps » ou « t'sais, moi, je m'achète une demi, mais j'ai pas de trouble. » Ouais, sauf que la journée où ce que tu vas apprendre peut-être que ta blonde vient de décéder ou que tu viens d'apprendre ton enfant ou que tu vis une tragédie, t'sais, ça se peut que là, tu files down en sacrement.
Tu vas vouloir combler ça.
Puis que ça se peut que la consommation, ça soit, tu penses que ça c'est une bonne porte de sortie, sauf que tout ce que ça va faire, c'est que tu vas continuer à t'enfoncer. Mm-hmm. C'est pas ça qui va te relever puis qui va te permettre d'aller bien.
Mm. Ouais, ben merci beaucoup, mon gars. Hey, man, merci, c'est super apprécié. Plaisir. Si le monde aussi, ils veulent là, ton livre, tu sais, Éric Martel, Bao et Lee, je n'arrêterai jamais de me battre. Man.
Exact.
Allez vous chercher ça, disponible pas mal tout partout.
Ouais, dans toutes les bonnes librairies, là, ouais. Renaud-Bré, Archambault. Puis différentes librairies. Puis sinon, je l'ai sur mon lien aussi, sur mon Instagram, dans ma bio.
Non, ben parfait, man. Yes. Ben, gars, merci tout le monde. Merci d'avoir écouté. Gros merci aussi encore une fois à procafetière.ca. Et merci à notre spectatrice, hein, la blonde qui est là, qui est venue nous écouter. Fait que merci beaucoup tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde.
Fait que c'est qu'est-ce qui conclut le podcast de cette semaine. Encore une fois, un gros merci à Éric Martel, Bao et Lee. Je vous recommande d'aller vous pogner son livre, hein, « Je n'arrêterai jamais de me battre ». Ou sinon, tout le monde, si vous aimez le podcast, encore une fois, je vous encourage à aller vous abonner à mon Patreon au patreon.com/whatsappodcast. Ou sinon, n'oubliez pas de liker ma chaîne YouTube, laisser un petit thumbs up, écrivez un petit commentaire positif, ça va être super apprécié. Ou sinon, je suis toujours aussi en spectacle avec mon nouveau show Géraldin Maturisé, avec mes deux grosses dates qui vont être le 22 février à l'Impérial Belle de Québec et le 15 mars pour ma fête au Club Soda, billets disponibles au Géraldin.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine tout le monde. On en revoit la semaine prochaine. Ciao! It's the What's Up Podcast! What's Up Podcast! What's Up Podcast! Avec Jeremy Allen! Yeah! Boom, 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 boom! Bam, 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 bam.